On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous et bienvenue dans On va pas se mentir. Très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce samedi, comme chaque semaine, de 15h30 à 17h. Après la crise diplomatique, la France souhaite délivrer 250 000 visas aux Algériens, le tournage d'Emily in Paris qui agace les Parisiens ou encore la polémique autour de Barbara Butch. Restez avec nous, nous allons en parler dans quelques instants. David, comment allez-vous ?
Super, et vous ?
Bah, très bien, très bien. Une nouvelle chemise, j'aime beaucoup.
Oui, je change fast fashion.
C'est 50 nuances de bleu.
Non, fast fashion.
Fast fashion.
Ah oui, c'est toutes les émissions, je change de chemise. Je prends une douche et tout.
Ah bah, je sais pas pourquoi vous spécifiez que vous prenez une douche.
Il y en a qu'une par semaine.
Et vous regardez Armand. Vous voulez dire qu'Armand ne prend pas de douche.
Tout de suite, ça y est, on commence.
Armand est avec nous. Comment allez-vous ?
Eh bah, ben très mal. Parce que vous le savez, ma voiture a été à la fourrière, mon billet d'avion a été annulé, je suis resté coincé dans l'ascenseur. Mais je suis ravi d'être avec vous ce soir.
À mon avis, il y a quelqu'un là-haut qui vous en veut.
Je pense
j'ai un chat noir à ma gauche.
Je pense que c'est un retour de karma, j'ai dû faire quelques bêtises ces dernières temps.
Et donc vous garez mal votre voiture ?
J'ai mal garé ma voiture, effectivement. Alors vous avez retenu que ça, quoi.
Oui.
D'accord, c'est toujours moi le coupable, en fait.
Elliot est avec nous, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va et vous ?
Bah oui, très bien, vous êtes accordés tous en bleu.
Oui,
c'est l'été.
Très bien, aux couleurs de...
Petit dégradé.
Aux couleurs de
la
radio.
Aux couleurs de la radio, aux couleurs de l'été.
En parlant de France, on va parler de Paris. Paris, capitale du cinéma, oui, mais à quel prix pour ceux qui y vivent ? M6 a sorti un sujet qui remet le feu aux poudres. Le tournage de la saison 6 d'Emily in Paris est de retour dans la capitale et les riverains, eux, n'en peuvent plus. Camionnettes de production, rues bloquées, hordes de touristes venus chercher le décor Netflix. La fiction a fini par prendre toute la place. On fait le point. Alors, est-ce que vous connaissez Emily in Paris ?
Oui, bien sûr.
Vous aimez bien ? Jamais regardé.
Ah, pourtant, vous êtes le style à regarder.
Ah ouais, non, moi, ce qui me fatigue dans cette émission, c'est que c'est tout le temps
c'est
propre.
C'est une série.
Oui, cette série, c'est que c'est tout le temps propre, c'est tout le temps beau. Enfin, il y a une image de Paris qui est véhiculée dans cette série. Bah, c'est vrai, qui est véhiculée.
Oui.
Il y a pas. Bon, je sais pas, on va pas parler des rats, etc. Mais c'est. Bah non, mais tout est propre.
Si l'équipe de Netflix entend cette émission, écoute cette émission, David veut produire une série sur les rats.
Mais non, mais c'est tellement beau, c'est tellement propre qu'on a l'impression que c'est de l'IA, les images.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'au contraire, ça donne une bonne image
bien
de Paris.
Sûr, mais on est la première destination touristique mondiale. On a pas
c'est grâce à
Paris.
C'est grâce à notre
attendez,
c'est grâce à notre
David, moi je suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a de moins en moins justement de tourisme à Paris parce que justement les touristes entendent tellement de choses sur le terrorisme, l'islamisation de la France, l'insécurité, en fait ils n'ont plus envie de venir, donc au contraire parfois ça peut être bien d'avoir aussi des productions qui mettent en avant le côté positif de Paris.
Non.
Elliot ?
Non, le problème c'est pas que ça mette Paris en avant, c'est surtout que ça met en avant un faux Paris et du coup quand les gens arrivent les touristes arrivent ici, bah, ils sont choqués. Moi, je vais revenir toujours à la même explication. Les Japonais, ils ont un sas de décompression quand ils reviennent de France. Parce que...
Vous avez compris, Elliot est financé par les Japonais.
J'aimerais.
Je commence à avoir des doutes. Hein.
Ils ont un sas de décompression, mais, c'est pas possible.
Surtout le sujet de base, on va revenir là-dessus, c'est les Parisiens qui en peuvent plus, que des rues entières soient bloquées. J'ai vu cette intervention d'une propriétaire d'un appartement qui est dans une des rues où une des scènes a été tournée au moins 8 fois et en fait elle n'a pas pu dormir parce que ça a duré jusqu'à 4h du matin. On peut aussi comprendre que les Parisiens n'ont rien à faire d'Emily in Paris, c'est que ça les emmerde. Armand ?
Non, bien sûr. Alors vous avez compris, mes deux camarades ici veulent une vraie série sur Paris, donc ils veulent filmer 1h30 d'embouteillage. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Non, je pense qu'elle fait beaucoup de bien cette série à l'international, justement au niveau de l'image de Paris. C'est bien, c'est toujours bien de mettre en avant notre patrimoine. Cependant, les riverains, moi j'ai regardé aussi les images. Terrible, terrible pour les riverains. Des fois, c'est jusqu'à 3-4 heures du matin les tournages, il y a du bruit incessant. Ils sont coincés pendant des semaines, si j'ai bien compris, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se garer. Voilà, j'ai eu un problème de stationnement d'ailleurs. Ouais, je n'arrive pas non plus à me garer. Non, mais je pense que les riverains... Moi, j'ai toujours cru que lorsqu'il y avait ce genre de série qui était tournée et que lorsque des rues étaient mobilisées, ils étaient dédommagés financièrement ou autre. Je me suis rendu compte qu'absolument pas.
Bah,
effectivement. Ils sont juste pénalisés et c'est tout.
Ils vont être contents que Netflix daigne les voir.
Bah, c'est ça. C'est
tu es avec maintenant, c'est le Sénat aussi.
Oui.
Le Sénat, Gérard Larcher et tout, qui se met en...
Qui est allé voir Émilie.
Mais
non,
d'ailleurs,
c'est Emily qui veut voir Gérard.
Brigitte Macron a tourné dans Emily in Paris.
Oui, tout à fait.
Saison 5, il me semble.
Ça, c'est très bien. Par contre, effectivement, ces riverains méritent quand même une certaine compensation. Parce que moi, je ne pensais pas que c'était autant de nuisances au quotidien.
Tu ne peux pas compenser ça. Il y a des films qui sont tournés. tous les ans, mais il doit y avoir au moins une quinzaine, une vingtaine de films qui sont tournés dans Paris.
Bah, c'est souvent les mêmes lieux en plus.
Il y a des appartements qui sont mis en place par des gens que pour de la location
pour
des films.
Pour le tournage.
Vous allez dans le 17e, il y a plein d'appartements où il y a des tournages parce qu'ils donnent sur le parc Monceau, sur la rue de Prony. Y a
la fameuse vue Tour Eiffel qu'on voit dans tous les films.
Exactement. Donc, en vrai, oui, moi je l'ai en bas de chez moi, j'ai souvent beaucoup de. Enfin, j'ai souvent des tracks comme quoi ils tournent, donc ils viennent
donc,
à.
Si vous regardez la saison 6, vous allez peut-être apercevoir Elliot en train de promener son chien.
En train de mettre une balayette au monteur.
Dougie, c'est ça?
Ouais.
Est-ce qu'elle est dédicace à Dougie?
Non, mais en vrai, pour en revenir, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ils viennent avec une installation de ouf pour souvent une journée de tournage. Ils récupèrent toute une rue à 6, 7, 8 camions, parce qu'il y a le camion bouffe aussi. Et en fait,
Elliot n'a retenu que le camion bouffe.
Non, mais parce qu'il y a quand même énormément de camions. Enfin, dans des rues qui sont étroites.
Il me semble, j'ai regardé les chiffres, il y a une centaine quand même de techniciens.
Ah ouais. Bah oui, bah voilà.
C'est quand même fou.
C'est des grosses productions.
T'as l'air de découvrir, tu dis des camions dans des petites rues, etc. Mais quand on ferme la rue de Rivoli et tous les grands axes, etc., les camions, ils vont où? Non, c'est pas, je veux dire, c'est pas les camions de Netflix qui viennent.
Non, mais ça, c'est un autre problème. Là, on parle pas des mêmes camions. Quand vous avez un semi-remorque qui vient parce qu'il peut pas passer à Rivoli parce qu'on a fermé Rivoli, parce qu'on est des génies, qu'on n'a pas envie de libérer la circulation, le problème, ça, c'est la mairie de Paris. C'est pas un tournage enfin comme ça 3 jours dans la semaine.
Bon, est-ce que Paris doit-elle continuer à dérouler le tapis rouge à Netflix quitte à sacrifier la tranquillité des Parisiens?
Bien sûr.
David.
Oui, oui, mais encore une fois, c'est ça reflète pas l'image. Ouais, bon, on va dire c'est une série, c'est un film, etc. C'est romancé, c'est exagéré, mais bon, ça reflète pas la vraie image de Paris, de tout ce qui se passe. Tu parlais de ça, de décompression quand les Chinois, les Asiatiques, ils arrivent. De la dernière fois, vous en parliez. Vos amis qui arrivent à Roissy, ils disent, on est passé par des contrées, etc. En arrivant de Paris jusqu'à Porte de la Chapelle. Voilà, ça reflète pas la réalité.
Je suis heureuse de savoir que vous suivez l'émission, même quand vous n'êtes pas là.
La placée, ouais. Même quand je suis pas là, j'écoute.
Armand.
Non, moi je pense qu'il faut continuer ce genre de série parce qu'elle fait beaucoup de bien quand même à la France et au patrimoine parisien. Après, je peux comprendre les riverains et je pense que c'est des grosses productions qui ont énormément d'argent. Donc moi, je reste sur le côté compensation financière ou autre compensation pour les riverains. Je pense qu'ils le méritent, sachant qu'effectivement, ils sont bloqués X temps le temps du tournage. Avec toutes les nuisances, qu'elles soient sonores, qu'elles soient aussi en termes d'espace, puisqu'ils ne peuvent pas se garer, etc. Je pense que les riverains méritent une compensation et Netflix devrait peut-être penser à, justement, dédommager ces riverains lorsqu'elle est en train de se faire.
Alors, je vais passer à autre chose, parce que c'est impossible de dédommager des gens. Tu vas faire quoi? Rentrer dans tous les immeubles et dire, bon, bah, y a 100 personnes à dédommager, on va leur donner quoi? 500 balles pour les dédommager?
Excuse-moi, peut-être connais pas, mais c'est payé, là? C'est payant d'occuper l'espace public? Non.
Non, c'est une dérogation. Ouais. C'est comme quand tu veux déménager et que tu demandes à un camion de venir et tu fais une dérogation pour dire, bah voilà,
parce
j'ai besoin de ta place.
Parce que quand tu déménages, tu préviens la préfecture, toi?
Bah, normalement, oui, tu dois le faire pour bloquer, quand
faire pour bloquer
quand tu mets un monte charge ou quoi que ce soit. Après, si t'es illégal, c'est ton problème. Hein. Moi, je vis dans la légalité, monsieur.
Moi, j'ai aucun souci avec l'image d'Emily in Paris, dans le sens où je trouve qu'au contraire, ça fait un peu de bien d'avoir une production qui fait quand même. Je dis pas que tous. Vous allez tous me casser les pieds, alors on dirait des gamins. Je peux finir mon raisonnement? Non, je trouve que ça fait quand même beaucoup de bien à l'image française sur la scène internationale, étant donné que notre communication actuelle est quand même catastrophique. Que ce soit aux États-Unis ou bref, peu importe, dans tous les pays, ils nous voient comme un pays complètement islamisé, complètement perdu et colonisé. Donc je trouve que ça fait du bien d'avoir quelques images un peu jolies, voilà, même si. Et Emily in Paris, c'est quand même assez wokiste, hein, si vous regardez un peu l'émission, mais bon. Enfin, la série, mais bon. Bon, vous comprenez. Mais voilà, je trouve ça quand même bien.
Juste, moi j'avais une question. Au lieu de dédommager les gens, on peut pas dédommager la ville de Paris parce qu'ils tournent pas qu'à Paris. Ils ont tourné dans le sud. On pourrait dédommager, par exemple.
Mais tout n'est pas qu'une histoire d'argent, messieurs.
Écoutez la logique. Donner de l'argent, peut-être au ministère de la Culture, même s'ils savent pas l'utiliser, mais le donner dans une pension pour pouvoir après le reverser, par exemple, au Louvre.
Je traduis ce que tu veux dire avec des mots en français.
C'est sympa, ça.
Non, mais
l'illégal, il va se calmer. Hein.
Non, ce que j'ai compris ce que tu veux dire, c'est qu'au moins que cet argent aille à, je sais pas, à l'entretien du patrimoine, des choses comme
exactement.
Ça.
Exactement. Voilà. La culture pour la culture.
Très bien. Ça sera votre mot de fin pour ce sujet. L'Assemblée nationale a voté contre l'expulsion des étrangers auteurs de violations de domicile. David, vous allez nous en parler.
Oui, la semaine dernière. C'était 8, 9, 10 juillet, la semaine encore d'avant. Le 15 juillet, on a voté la loi Riposte portée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et dans cette loi, durant les débats en hémicycle, un député Rassemblement National, mais aussi des sénateurs, le député, c'est Jonathan Géry, donc a déposé un amendement pour expulser les ressortissants, les terroristes en situation irrégulière, etc. Enfin bon, bref, et on a voté contre, enfin, le ministre a voté contre, et puis tout le monde a crié en disant scandale, 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 etc. Donc, je suis là pour vous dire que je suis d'accord avec Laurent Nunez.
Pourquoi ?
C'est ridicule en fait, et même Valérie Boyer au Sénat en fait a déposé encore l'amendement, c'est ridicule en fait de remettre à l'agenda de l'Assemblée nationale quelque chose qui existe déjà. Donc l'interdiction de territoire français pour les terroristes, ça existe déjà. D'accord, premièrement. Deuxièmement, juridiquement, en fait, ce que les députés et les sénateurs voulaient en déposant cet amendement, c'est que ce soit automatique dès que vous êtes un terroriste ou vous êtes en situation irrégulière, directement interdiction.
Non, mais là, on parle de l'expulsion des étrangers auteurs de violations de domicile. Hein.
Voilà. Et donc, mais en fait, ils ont tout regroupé, les terroristes, etc. Enfin, ils ont voulu faire et automatiser ça. D'accord. Donc, c'est-à-dire dès que quelqu'un est en situation irrégulière. Quoi qu'il se passe, en fait, il est expulsé. Et le problème, les députés et les sénateurs ont raison, en fait, pourquoi ils ont fait ça ? C'est qu'ils veulent remettre sous la lumière, en fait, l'inexécution de toutes ces OQTF. On a 150 000 OQTF. Mais oui, on peut pas, en fait, c'est pas appliqué. Ça existe déjà. En fait, le problème, c'est que ça existe déjà dans les différents plans. On n'a pas attendu 2026 pour dire faut expulser tous ceux qui sont auteurs de je sais pas quel crime, etc. et qui sont en plus en situation irrégulière. D'accord ? Donc en fait, le problème, c'est que c'est pas exécuté. On a 150 000 OQTF par an, 150 000. Il y en a à peine 15 000 qui sont prononcés. Attendez, 150 000 exécutés, 150 000 prononcés, 15 000 exécutés. Sur les 15 000 exécutés, vous avez toujours des recours. Les recours juridiques sont suspensifs. Et vous avez les fameux laissés-passer consulaires qui ne sont pas délivrés. Donc je reprends, les députés et les sénateurs en fait, ont remis dans cette loi riposte cet amendement pour mettre en lumière le fait que les interdictions de territoire français et les OQTF sont prononcées, ne sont jamais exécutées et que c'est un vrai sujet.
Armand.
Alors déjà, je pense qu'il faudrait expliquer ce qu'est une OQTF, premièrement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans. Je vous l'annonce, moi j'ai déjà été sous OQTF.
Oh là là.
Et oui.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
C'est la vérité.
Vous sortez du studio.
Je vous explique.
Moi, il sort de quelque part.
Je vous explique.
C'est quoi cette équipe de bras cassés, là ?
Je vous explique pourquoi. Parce qu'une OQTF, c'est une décision.
Non, pas moi.
C'est une décision administrative.
Attendez, on arrive, Eliott.
C'est une décision administrative. Avant d'être naturalisé français, j'avais une carte de séjour. Lorsque la carte de séjour se périme, on ne va pas vous refaire une carte de séjour le temps que vous soyez naturalisé. Donc, il y a une période, il y a un délai entre les deux. Donc, c'était un délai, je crois, de 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, j'avais une obligation de quitter le territoire. Qui était une décision administrative durant 3 semaines avant d'être naturalisé français. Donc on va pas refaire une carte de séjour de 10 ans alors que vous allez être naturalisé, ça a pas de sens. Donc déjà il faut voir ce que c'est les OQTF. Les OQTF c'est pas forcément des gens qu'il faut expulser dans l'immédiat. Évidemment il y en a qui sont expulsables dans l'immédiat.
OQTF, parce que vous savez ce que ça veut dire quand même.
Obligation de quitter le territoire.
Bon,
mais
bah
c'est
voilà.
Une décision administrative, c'est pas une décision juridique. Attention, c'est deux choses différentes. Le judiciaire pardon. C'est deux choses différentes quand même. Par contre cependant quelqu'un qui a commis un crime ou un délit, enfin c'est quand même hallucinant qu'on ait ce genre de débat en France et je pense qu'il y a que en Occident et d'ailleurs plus précisément qu'en France qu'on a ce genre de débat. Quelqu'un qui est étranger à ce territoire, donc qui n'a pas la nationalité française ou européenne, qui est étranger, commet un délit. À quel moment donné on se pose la question de s'il faut l'expulser ou pas ? Évidemment qu'il faut l'expulser. Et David a totalement raison, les lois existent déjà. Pourquoi ajouter une loi sur une autre loi ? Les lois existent. Il suffit de les appliquer. Et en fait, c'est lunaire qu'on ne les applique pas.
Mais
parce qu'il y a quand même quelque chose vraiment de totalement lunaire. C'est-à-dire que la personne est étrangère. Elle vient dans un pays qui l'accueille, souvent pour des raisons économiques, pour travailler, peu importe. Mais en tout cas, il y a un minimum de respect envers le pays d'accueil à avoir. La personne, au lieu de se dire, bah tiens, je vais travailler, j'ai trouvé un travail, je vais m'intégrer, je vais réussir ma vie, parce que l'objectif de venir en France, c'est quand même de réussir sa vie, bah elle commet des crimes et des délits. Évidemment qu'on l'expulse. Enfin, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'en France, on arrive à avoir ce genre de débat qui, moi, me dépasse parce qu'ils sont tellement évidents. Et les filles, lorsqu'ils défendent ces gens-là, pourquoi ? Pourquoi ils défendent les criminels ?
Bah c'est, normal, c'est leur électorat.
Bah oui.
C'est leur électorat.
Ça leur permet de grandir dans les sondages.
Oui, mais c'est leur futur électorat si on veut. Mais en fait, ça n'a juste pas de sens. Parce qu'en plus, ça contribue à créer
une discrimination entre les... Sachez que 82% des Français y sont favorables.
Ce qui est logique.
Et juste, il dit quelque chose de très juste, c'est leur électorat. Donc tu dis que c'est leur électorat, mais qui
leur
les amène ?
Leur futur électorat.
Leur futur... Mais c'est ça qui est grave. T'as dit le mot futur électorat. Qui les amène ? Qui autorise ? Qui n'exécute pas ? C'est la Macronie. Vous vous rendez compte ? C'est dingue, c'est la Macronie qui apporte l'électorat.
Vous êtes un peu naïf, ça fait 40 ans que ça dure.
Oui,
c'est pas que la Macronie. C'est un système qui a été créé il y a bien longtemps.
On va arriver après une autre chronique, etc. On va dire en fait, tout le monde tape sur LFI. Mais LFI ne gouverne même pas.
Ah bah maintenant vous défendez LFI.
Non mais ils sont pas au pouvoir, c'est ça qu'il veut dire.
Non mais vous avez bien compris que David Damien est un contre-courant.
Je peux vous toucher, Armand ?
Bien sûr, pourquoi ?
D'accord, non, j'ai jamais touché un OQTF.
Je suis français, monsieur. Je suis français.
Vous voulez pas mon avis ? Si.
Si, si, bien sûr, allez-y.
Bah, moi, je suis totalement d'accord avec Armand. C'est vrai qu'il faut bien regarder les types d'OQTF, parce que, comme il a dit, il y a surtout n'y a pas que des gens qui sont des délinquants qui sont au QTF, il y a aussi des gens qui ont un problème de renouvellement de carte, il y a des étudiants qui, quand ils veulent se réinscrire pour une année en plus, c'est compliqué, donc ils rentrent dans l'OQTF. Moi, le problème que j'ai, c'est ce qu'on a soulevé, c'est qu'en fait, dans ce pays, il y a des gens qui sont faits, enfin, qui sont élus et qui sont députés pour faire des lois et qu'elles soient appliquées. Mais j'ai l'impression qu'ils sont que là pour débattre. Il n'y a jamais d'application de loi, il n'y a jamais de justice qui est prononcée. On ne prend aucune mesure quand ce n'est pas fait. Non, mais on va reprendre, on va en parler, je pense, plus tard des Algériens. Mais combien de fois.
Vous avez vu le conducteur, je suis ravi.
Combien de fois on a parlé cette année des problèmes qu'on a avec les consulats algériens, avec le fait qu'on n'a pas de laissez-passer pour envoyer les OQTF. Et on leur donne de l'argent, on leur donne des visas, on leur donne des soins gratos, on leur donne plein de choses, on n'a rien en contrepartie. Les laisser passer consulaires,
c'est bien au contraire.
Ce dont parle Eliott, ça tient debout. État de droit. Voilà. Donc, non, mais c'est ce que j'ai dit dans la chronique de la semaine dernière. Le candidat qui aura le courage de dire « moi j'abroge l'état de droit », bah chapeau, voilà. Il y a Rotaillot, Zemmour et je sais pas qui. En fait, faut réformer la constitution parce que c'est les recours administratifs qui sont responsables de la non-exécution de ces OQTF. C'est-à-dire que le recours est suspensif, premièrement. Il n'y a pas de place en centre de rétention administrative. Centre de rétention administrative dont on a voulu étendre la durée. Oh, et surprise, qui a retoqué l'allongement de la durée de rétention en centre de rétention administrative? Le Conseil constitutionnel. Voilà, donc tu veux quoi? Donc voilà, il va falloir abroger le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la CEDH, la CEDH aussi, et contre c'est, ça va à l'encontre de la vie privée et du regroupement familial. Voilà, donc tout ça c'est l'état de droit là, ce dont tu te plains.
Armand.
Moi je pense que c'est assez dangereux quand même ce genre de vote, parce que j'ai regardé qui avait voté contre, bah, notamment les députés et les filles, et en fait ce qui est dangereux c'est leur motivation, lorsqu'ils expriment leur refus, pourquoi, donc la raison de leur refus. Je pense que c'est très grave et c'est très dangereux notamment pour l'image des immigrés, parce que je pense que c'est contre-productif dans leur propre discours, c'est qu'il y a des immigrés quand même, il faut l'avouer, qui viennent dans ce pays pour travailler. Et lorsqu'on voit ce genre de vote, lorsqu'on sont mis en avant ce genre de criminels et qu'on les tolère, des criminels ou des gens qui ont commis des délits et qu'on les laisse sur le territoire et qu'on les tolère, et bah finalement ça participe aussi à une image extrêmement négative des immigrés qui, eux, pour le coup, n'ont rien fait. Ceux qui sont là pour travailler, pour réussir leur vie. Je pense qu'il y a une confusion qui est terrible, qui est faite de la part de LFI et qui est très dangereuse sur la suite des événements.
Et voilà. David, je vois hocher la tête.
Oui,
vous
non, mais
pas
les gens, ils sont pas stupides, on fait pas d'amalgame.
Ah si, je pense qu'à force, on le fait. À force, on le fait, et on peut pas en vouloir à quelqu'un qui le fait, en fait, à force. À force, on peut même pas en vouloir aux gens qui font des amalgames.
Eliott.
Non, je voulais rebondir sur quelque chose que j'ai entendu le week-end dernier, c'est que, vous savez, en vrai, quand vous êtes étranger, que vous venez ici, vous pouvez travailler.
Étranger en situation irrégulière.
Irrégulière ou même...
Irrégulière, on ne peut pas travailler normalement.
Bah, vous ne pouvez pas travailler.
Voilà. Donc,
normalement.
Donc titre de séjour.
Avec un titre de séjour,
visa
vous pouvez travailler.
Ouais. Visa de travail.
Sauf que quand vous... Enfin, il y a toujours un moment où, quand vous faites faites un recours pour pouvoir avoir une nouvelle carte de séjour et que ça prend du temps, il y a un délai, vous travaillez encore pendant ce temps-là.
Bien sûr.
Donc en fait, l'État est quand même bien content de prendre toutes les charges qu'elle prend sur vous, sur toute cette période-là.
Bah moi, j'étais étudiant et je travaillais à côté.
Voilà.
Pourtant.
Bah voilà.
Ouais, en plus.
Donc en fait, il y a ça aussi qui est fou. C'est-à-dire qu'on est dans un État aussi qui est tellement à la recherche de l'argent que même sur des situations comme ça, il ne retoque pas.
Et tu sais que ces charges-là, donc de gens qui travaillent en situation, qui ont un visa de travail, qui sont en situation régulière et comme tu as dit, il y a un temps où
il y a tout le temps un delta où il y a un problème.
Il y a tout le temps un delta où il y a un problème. Ça va justement aussi à des gens qui sont en situation régulière et qui ont des allocations. Vous allez à Porte de la Chapelle, vous allez à la poste de la Porte de la Porte de la Chapelle, c'est
oui,
ça,
ça.
Celle qui est juste devant le tramway.
Les 700 et quelques euros qui sont...
Vous voyez la queue qu'il y a devant le distributeur de la poste tous les 5 du mois.
Je ne savais pas que vous alliez Porte de la Chapelle.
Mais si, ça m'arrive souvent de passer par là pour aller à Roissy. Les contrées de vos amis.
Ouais, parce que ça aussi, je rejoins David, il y a beaucoup de fake news qui sont autour de ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un est réfugié en France, réfugié, donc réfugié de guerre ou autre, effectivement, il a des allocations. Effectivement, il perçoit de l'argent.
Donné par le département.
Moi, je suis désolé, mais je trouve ça scandaleux. Quand je vois qu'aujourd'hui, les Français crèvent la dalle et qu'on leur refuse des allocations alors que les migrants qui viennent d'arriver, on leur donne, déjà, il faut s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de notre pays pour ensuite pouvoir être généreux et s'occuper des autres. Et surtout des gens qui, pour leur majorité, se crachent sur nous. Donc je suis désolé, mais...
Ça dépend en règle générale des raisons pour lesquelles ils sont venus en France, mais c'est vrai que...
Il faut arrêter de croire et de que... Il faut arrêter d'avoir cette vision individualiste en pensant oui mais telle personne. Aujourd'hui c'est des gens qui se regroupent en communauté et qui nous coûtent beaucoup d'argent et qui sont pour la plupart contre nous, donc il faut arrêter de vouloir faire du cas par cas, c'est pas possible. Quand vous faites de la politique, vous pouvez pas faire du cas par cas.
Et c'est pour ça qu'il y a un travail aussi à faire au niveau de l'immigration, hormis le bloquer l'immigration massive, etc. Un travail aussi de tri de l'immigration qu'on a actuellement, c'est-à-dire des gens qui
il y a aucun tri, mais arrêtez, vous avez
mais
vu,
il faut le faire.
J'avais
je
fait une étude là-dessus sur des associations qui permettent à des gens qui viennent d'arriver qui viennent d'arriver illégalement sur notre sol et qui leur permettent
de trouver des failles
dans la loi et leur permettent de rester en France avec des allocations et ils ne travaillent même pas.
Et associations qui reçoivent des subventions
de l'État. Non mais attendez, c'est de la folie. Et d'ailleurs, en parlant d'étrangers, j'avais un coup de gueule. C'est une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Une militante féministe allemande affirme que les blancs auraient un devoir moral d'arrêter d'avoir des enfants et de laisser davantage entrer de réfugiés. Verena Brunschweiser, figure du mouvement Child Free en Allemagne, assure un discours qu'elle-même reconnaît comme volontairement provocateur. On regarde ce qu'elle dit et pourquoi ça fait réagir. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi, je suis complètement... Vous savez que moi, je suis pour le réarmement démographique. J'en parle depuis des années.
Armement tout court.
Doucement, les gars.
Je trouve ça scandaleux, mais en même temps... Vous savez quoi, c'est un coup de gueule, mais c'est aussi un coup de cœur parce que enfin, certaines personnes disent ce que les autres pensent tout bas. Et ça, je trouve ça très bien parce que souvent, on a pu, en tant que comment dire, de personnes de droite, on a dit à ces gens-là que leur volonté était le grand remplacement. Avant, ils ne le reconnaissaient pas. Bah, maintenant, c'est clair, David.
Je pense que ces gens-là, en fait, ils sont en fin de vie. Ils savent plus quoi dire, plus quoi faire pour exister.
Elle a pas l'air d'être en fin de vie.
T'as vu son âge ?
Mais alors ?
T'as vu son âge ? Non, mais ce que je veux dire, c'est pour exister. Ça me fait penser à Sandrine Rousseau, qui sort l'histoire des cadavres, etc. Ces gens-là ne savent plus quoi faire pour exister. Maintenant, plus sérieusement, deux secondes. Il y a beaucoup de gens de notre génération qui se disent faire un enfant, qui réfléchissent à faire un enfant dans ces conditions, le changement climatique, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai de la place.
Mais ça, c'est des arguments de bobo.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que justement, on a tellement amputé du bulbe beaucoup de gens de notre génération que c'est gravissime. On en est arrivé où...
Elle précise que son discours antinatalité vise spécifiquement les populations blanches et non les populations immigrées, qui ont souvent des familles plus nombreuses.
Ben, oui. Armand est bien.
Non, mais c'est quand même de la folie de dire
Charles
ça.
Charles, il en pense quoi?
Armand.
C'est raciste. Déjà, c'est un discours totalement raciste. Ouais. Dirigé contre les minorités, puisque les blancs sont minoritaires sur Terre. Et oui, ça, on le dit jamais, mais en fait, si on a ce genre de discours complètement racialiste et complètement stupide, bah, il faut regarder dans sa globalité dans ce cas-là. Et les blancs sont effectivement minoritaires sur Terre. Voilà. Donc ça veut dire. Bah,
c'est
les blancs sont minoritaires.
Ouais, c'est quoi,
bien sûr, c'est les Asiatiques, c'est l'Inde, c'est l'Afrique. L'Europe, on n'est pas nombreux. Hein. On fait même pas la moitié de l'Asie.
Vous êtes choqué par ces propos?
En fait, je pense que moi, ce qui me fait peur, c'est que ça remonte à l'euro, enfin à l'Union européenne, et que on ait des gens comme ça qui soient députés en Allemagne, qui puissent passer à l'Union européenne et qui puissent nous faire en fait nous donner et nous impacter avec des lois comme ça. Je pense que on se rend pas compte à quel point on est dépendant des autres pays, et surtout de l'Allemagne, et des choses comme ça, en fait, je trouve ça aberrant. Je me dis, aujourd'hui, on doit stigmatiser, alors on va dire une partie de la population blanche, parce que si, parce que ça. En vrai, aujourd'hui...
Excusez-moi, on a un fact-checker.
Ouais, c'est un fact-checker en face, on essaie de comprendre ce qu'il fait. Mais non, en fait, on est là. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est soit la surpopulation dans certaines zones, soit... une vieillesse de la population, une grosse vieillesse de la population. C'est ce qui se passe par exemple en Allemagne et dans plein d'autres pays comme le Japon et d'autres. Ouais. On a un gros problème de natalité. En France, on a aussi un gros problème de natalité. Sauf que le problème de natalité, il n'est pas parce que les gens n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est parce que les gens se posent la question, est-ce que c'est possible d'avoir un enfant aujourd'hui dans un état comme ça?
C'est aussi économique.
Oui, exactement, voilà, c'est économique, c'est problématique de se dire qu'aujourd'hui on réfléchit à faire des enfants parce que on sait pas si on va pouvoir avoir assez de fonds pour s'en occuper, si on va pouvoir faire vivre dans un environnement stable et sain. Et en fait, c'est là où on se dit l'État a une énorme cible et responsabilité bien sûr. De cette baisse de la natalité et du manque de réflexion qu'ils ont en disant...
Non, mais il y a un souci aussi par rapport à notre génération. C'est-à-dire que nous, on a grandi, mais en fait, on n'a pas vraiment grandi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équivalent d'avoir 30 ans aujourd'hui, c'est l'équivalent il y a je sais pas, 40 ans, c'était l'équivalent d'avoir 20 ans.
On devient adulte plus tard.
On devient adulte beaucoup plus tard parce que la société a fait que, voilà, je sais pas si c'est les réseaux sociaux, je sais pas si c'est Covid qui a fait que, on essaie de rattraper des années, mais aujourd'hui, vous prenez une femme de 30 ans, il y en a beaucoup qui ne se voient pas être mère ou des hommes qui ne se voient pas être père. Et pour moi, c'est une grosse problématique, c'est qu'avant, les gens se mariaient beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, il y a une accessibilité de relations éphémères et donc les gens ne se rencontrent plus ou alors se rencontrent très vite et donc il n'y a plus cette construction de la famille. On a voulu bafouer complètement l'idéologie de la famille traditionnelle et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne fait plus d'enfants.
Mais il n'y a pas que
évident.
Ça, il y a aussi le fait que nous-mêmes on n'est plus aussi carriériste qu'avant, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester 40 ans dans la même société, on va avoir plusieurs tafs différents. Je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple j'ai déjà changé 3 fois de secteur d'activité.
De femme.
Non, de secteur d'activité et même de travail. Donc aujourd'hui, on ne travaille plus de la même manière qu'avant.
Ouais,
on ne vit plus de la même manière qu'avant. On a la fast fashion, on veut tout rapidement.
Tout de suite.
Tout de suite. Donc on a une autre problématique qui est de stabilité. Et on n'est pas stable. Je vais transposer, mais on n'est pas stable parce qu'on n'a pas un état stable aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que la population part à volo et beaucoup, et c'est en gros problème, enfin en gros cible, c'est l'État. Si l'État va pas bien, les citoyens ne peuvent pas aller bien.
Bah pas pour tout le monde apparemment, parce que quand vous regardez rapport de l'INSEE qui dit qu'une femme algérienne fait 4,9% plus d'enfants qu'une femme française qui en fait 1,4, excusez-moi, mais c'est affolant. Hein,
c'est logique. C'est logique dans ce que vous dites, parce que c'est pas les mêmes structures. Là où je vous rejoins, c'est que vous avez raison, la structure familiale a été remise en cause. Donc effectivement, on a moins envie de faire d'enfants. Et puis ici, il faut voir historiquement, la génération précédente, enfin les deux générations un peu précédentes, ont eu un truc qui s'appelait les 30 Glorieuses, les Baby Boomers. Donc ils avaient une économie florissante, ils avaient un état surprotecteur qui était là pour eux. Ils pouvaient acheter une maison, ils pouvaient acheter... Il y a combien qui ont acheté des appartements, des maisons pour une bouchée de pain? Oui. Aujourd'hui, vous avez 30 ans, allez, on va dire que vous gagnez un salaire médian, c'est 3000 euros je crois. Vous gagnez 3000, allez, même 3500 euros, mais vous ne serez jamais propriétaire dans Paris. Dans les beaux quartiers de Paris, vous savez très bien que vous n'allez pas l'être.
Ouais, vous allez vous
juste pour information, cette même dame députée allemande avait défendu l'idée d'une prime de 50 000 euros pour les femmes sans enfants à 50 ans.
À 50 ans?
Oui.
Mais c'est pas
possible. Elle est écologiste, c'est pas possible.
Alors déjà, il faut qu'elle revoie les cours de bio. À 50 ans, c'est compliqué. Hein. À 50 ans, c'est assez compliqué d'avoir des enfants.
C'est n'importe quoi.
Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer?
C'est qu'il y a un truc qui s'appelle juste la nature. Ah oui, pardon, excusez-moi.
On peut congeler.
C'est vrai, on peut pas. C'est vrai qu'on peut congeler. Oui, génial. Faites l'amour avec le frigo et lâchez-moi.
Tiens, je sais pas si vous avez vu passer ça. Le centenaire d'un lieu de culte qui vire au débat politique. La Grande Mosquée de Paris a fêté ses 100 ans cette semaine en présence de tout ce que la République compte de personnalités. Et c'est le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a fait parler de lui en plaidant ouvertement pour la construction de nouvelles grandes mosquées en France. On écoute.
Et je le dis à titre personnel, je pense que nous mériterions d'avoir d'autres grandes mosquées dans notre pays, ce qui serait, je crois, plus à l'image de ce qu'est notre pays.
Moi, je suis désolée, mais je vais avoir mon discours de d'habitude très pro-cato. Mais il y a un moment donné, on a des églises qui sont en ruine et on veut construire des nouvelles mosquées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment...
Attention. Ça peut être pris en compte, on va changer les églises en mosquées. Donc c'est pas ce que vous dites, je préfère préciser.
Vous rendez compte que maintenant, on fait des salles de sport, des boîtes de nuit dans des églises soi-disant désacralisées, mais on décide de construire des mosquées. Voilà, moi je trouve ça hyper choquant. Armand, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais quand je vois que par exemple, en Algérie, Notre-Dame d'Afrique est une très 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 belle cathédrale, on l'a transformée en bibliothèque. Voilà. Et nous en France... Scandale. On se fait cracher dessus toute la journée par pas par tous les musulmans, mais par une certaine communauté musulmane extrémiste, et on leur construit des mosquées. Armand.
Pour moi, l'Algérie n'est pas un exemple, donc c'est pas un exemple à suivre, donc je vois pas la comparaison déjà avec l'Algérie, je la trouve pas pertinente, pour être très franc.
Vous sortez du studio.
Non, secondement, la population musulmane croit. Il y a de plus en plus de croyants qui sont de confession musulmane. Il faut bien qu'ils prient quelque part. Alors là, je sais que vous allez tous m'attaquer, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je préfère aujourd'hui qu'on construise effectivement des mosquées françaises, avec de l'argent français, qu'on sache les prières et les prêches qui sont faites dans ce genre de mosquée,
vous dites n'importe
plutôt
quoi.
Que la mosquée de Strasbourg, qui est construite par Miligoruch et autres, des groupes assez islamistes et autres, où il y a des prêches islamisés. Au moins, il y a un certain contrôle de la religion. Ah, alors, contrôle,
mais
j'entends bien
par contrôle. C'est complètement entré dans le jeu, là. C'est n'importe quoi.
C'est-à-dire
que moi, je vais vous prendre un exemple. À l'époque, tous les étrangers qui venaient d'anciennes colonies comme l'Algérie étaient pour la plupart musulmans, n'avaient pas besoin d'aller prier ou d'avoir un certain apparat.
Ils priaient dans des garages clandestins avec des imams.
Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, c'est une déclaration qui se veut provocatrice et polémique. Moi, je suis désolée, mais dans ce contexte-là, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, sachant qu'on ne propose pas la même chose pour les catholiques, à aucun moment Emmanuel Grégoire irait dire bah, venez, on va réparer nos calvaires et nos églises. Donc moi, je trouve ça complètement scandaleux et purement électoraliste.
Je voudrais rebondir sur l'argument d'Armand, qui est repris par tout le monde, en fait, par tous ceux qui défendent la position de gens comme Emmanuel Grégoire. Si on les aide à financer, on pourra contrôler. Oui, non, mais je veux bien, là, actuellement, là, combien de fois on a pu contrôler les imams qui venaient du Maroc, de la Turquie, de l'Algérie? Jamais. Parce que non, mais c'est le pire, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui délivre les fameux laissez-passer, etc., les fameux visas pour qu'ils puissent venir. Parce qu'on nous avait dit et on nous avait argué la même chose que ce que tu viens de dire. On pourra contrôler ce qu'ils disent.
Vous oubliez quelque chose.
Quand il était ministre de l'Intérieur.
David, vous oubliez quelque chose. La loi 1905.
Oui.
L'État n'a pas. Intervenir.
Bien sûr, non, mais quand on dit financer, c'est pas financer directement.
Vous n'avez pas regardé toute la cérémonie?
J'ai regardé le discours de Laurent Nunez, j'ai tout regardé, je crois.
Est-ce que vous connaissez le recteur Chemseddine Hafiz, qui a lui-même reconnu qu'il a fallu une gymnastique juridique pour contourner la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État? Tout ça pour la construction de la Grande Mosquée de Paris, qui a été inaugurée le 15 juillet 1926, portée par le projet du maréchal Lyautey, en hommage aux soldats musulmans morts pour la France. Bah alors construisons d'autres églises pour tous les morts catholiques qui sont battus pour la France. On les répare.
Non, je suis désolé, on peut rien contrôler. On contrôle pas non plus ce qui se passe dans le halal. On contrôle pas non plus ce qui se dit dans les mosquées. C'est du foutage.
On les laisse prier dans des garages clandestins.
Votre débat il est stérile parce que le problème c'est l'État peut pas contrôler et il faut contrôler. Donc on va faire comme je le dis depuis plusieurs semaines. C'est instaurons un consistoire comme dans le judaïsme qui est en relation avec l'État et qui permet de mettre en place des règles pour que ça s'amalgame.
Il y avait une tentative avec l'islam de France qui avait été avancée.
L'islam n'est pas compatible en soi avec la République.
Merci.
Si vous regardez la sunna, donc ce sont les règles que les musulmans doivent suivre, etc., il y a une incompatibilité. Donc l'islam de France, pour moi, c'est juste un concept pour essayer de faire rentrer des cubes dans des ronds.
Alors,
c'est tout.
L'islam en tant que dogme idéologique, bien sûr qu'il n'est pas compatible, mais aucun dogme idéologique n'est compatible avec la République. Oui. La République est antinomique à toutes les religions, de toute façon, factuellement. Cependant, l'islam ne se vit pas en France comme il se vit en Arabie Saoudite, comme il se vit en Indonésie, etc. Il y a quand même des nuances d'islam, il y a quand même des dans la pratique. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un islam de France qui est possible. Cependant, exactement. Et c'est ce dont on manque maintenant depuis des années, parce qu'à chaque fois, on essaye. On est peureux. La baïa, par exemple. La baïa, ça a été un débat inutile. En fait, oui, la baïa, c'est interdit. Point. C'est tout. Faut pas. En fait, faut savoir
mais
être ferme.
C'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours.
Il y a personne qui est ferme dans cet état.
Mais n'importe quoi. À chaque fois.
Ça manque de fermeté et de clarté.
À chaque fois, il y a des détournements. Ils arrivent toujours à faire quelque chose. C'est comme les voiles avec les masques.
Avec les masques chirurgicaux.
Les masques chirurgicaux. Oui. C'est toujours pareil.
Non, et moi, je voulais qu'on rappelle à Elliot qui nous dit. T'avais très bien rebondi sur l'islam de France, etc. Le nombre de fois on a créé Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Sarkozy et même Emmanuel Macron, où ils ont réuni le Maroc, l'Algérie et la Turquie pour dire on va créer le CFCM, on va créer l'islam de France, etc. On va créer une charte, etc. Ça s'est toujours terminé. Je t'ai cité trois exemples. Jean-Pierre Chevènement,
le problème CFCM, déjà, c'est qu'est-ce que tu vas voir les autres pays?
Parce que les imams viennent
de... déjà le principe c'est de prendre des gens qui sont ici et d'en faire des imams.
Il y a un problème de base, un problème de dogme. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est qu'il faut différencier l'islam des musulmans. En tant que musulman, moi j'ai aucun souci avec leur pratique, c'est-à-dire le ramadan, voilà les principes de base. Mais de là à comment dire, exhiber sa religion sur l'espace public, moi j'ai un peu plus de problèmes avec ça. Et je trouve que c'est un peu, c'est encore une fois, c'est de l'électoralisme. Voilà, Emmanuel Grégoire connaît son électorat et sait qui vote pour lui.
Pour aller dans le sens de Baïa, Je rebondis sur ce que j'avais dit juste avant. Elle vient de dire toutes les tentatives d'harmonisation, unification, toutes ont échoué. Celle de Jean-Pierre Chevènement, de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron.
Il y a toujours le même problème. Vous allez chercher à l'étranger. On est en France.
Mais non, attends.
On fait en France pour les Français.
Mais tu peux pas leur interdire en fait. Un imam, ça se choisit pas en fonction. Enfin, tu peux pas interdire aux gens de choisir l'imam qu'ils veulent.
Ilia, t'as pas compris. Ils sont en France. Ils sont en France.
C'est pas une question de choisir l'imam qu'ils veulent.
C'est pas ça.
Voilà, déjà créer ça.
Bah oui, mais
en fait, vous avez toutes les solutions, mais vous voulez pas les appliquer.
Non, Elliot, le problème, il est pas là. C'est que, en fait, tu peux pas t'interférer là-dedans. C'est-à-dire que l'État ne peut pas choisir un imam à la place des musulmans qui choisissent dans la mosquée. Le problème, il est là. On n'a pas le pouvoir de décision.
C'est ce qu'il veut te dire. C'est pour les juifs.
Oui, mais chez les juifs, ça existe super, mais ça existe pas chez les musulmans. Donc, qu'est-ce
qu'on fait? Mais il y a un moment.
On va pas changer la religion.
Il y a toujours un moment où l'État se confronte à un problème avec la religion. C'est ce qui s'est passé avec Napoléon Bonaparte.
Ouais, ce qui s'est passé,
il a décidé de rendre plus laïque de rendre laïque le judaïsme en France et que on s'acclimate à la France. Donc à partir du moment où vous avez un État qui est fort, on se soumet.
C'est tout.
Que ce soit les religions, que ce soit les citoyens, que ce soit tout le monde se soumet.
Vous allez dans mon sens.
Donc, à partir de ce moment-là.
Comme elle dit Baya, il faut quelqu'un qui ait du tempérament.
Ah oui, comme on l'avait dit la dernière fois, quand les gens auront des couilles, peut-être qu'on pourra faire quelque chose dans ce pays.
Il est en colère, Il est en colère.
Pas content, Baya.
David, vous vouliez dire un dernier mot et ensuite on va passer à un prochain sujet.
Non, je suis d'accord avec vous, l'islam n'est pas compatible avec la République.
Aucune religion ne l'est.
Mais oui, aucune religion ne l'est.
Oui,
ça
mais le judaïsme c'est soumis. Le judaïsme c'est soumis.
Oui, donc tout est une question de soumission. Mmh. Voilà.
Ouais, l'islam, vous savez ce que ça veut dire?
Oui,
soumission. Donc ça dépend de
soumission
dans quel
sens. À Dieu, pas à la République.
Oui, mais alors,
allez. Ne commencez pas. On coupera ça, Maxime, s'il te plaît. Allez. Une affaire qui agite les coulisses de France Télévisions. La journaliste Émilie Tran Nguyen, disparue des écrans depuis la mi-juin, aurait en réalité été interpellée pour une transaction de cocaïne à Paris. Une information qui contredit la version officielle donnée par la chaîne. On fait le point avec toutes les précautions qui s'imposent sur une affaire non confirmée par les principaux intéressé, c'est le journaliste indépendant Clément Garin qui a sorti cette info. Vous en pensez quoi, vous, David? Est-ce qu'on a le droit de relayer ce genre d'information tant qu'elle n'est pas confirmée?
Alors, on va réagir sur des informations que l'on n'a pas vérifiées, mais j'ai juste envie de dire vous savez pourquoi? Parce que tous ces gens-là, donneurs de leçons, cette casse-là qui passe la longueur de journée à dire c'est la vérité. C'est la vérité, c'est des gens en fait qui sont payés pour être condescendants avec entre guillemets le petit peuple, etc. Et dès qu'il leur arrive un truc, ils sont protégés. On la met sur le côté. Ça me fait penser à Léa Salamé. Vous savez qui s'est fait arrêter avec qui n'avait pas son permis. Voilà. Tout va bien. Non, mais ces gens-là, c'est insupportable. C'est toujours pour ceux qui sont là-haut, la caste, il n'y a rien.
Y a personne
ceux
qui sont
heureusement que j'ai dit qu'il fallait prendre des précautions parce que l'information a été validée par la police.
Déjà, moi, je vais dire quelque chose que je pense personnellement. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Comme ça, on va aller plus vite.
Allô, c'est mignonne, très mignonne.
Mais c'est pas la question.
C'est quoi ce débat?
Vraiment. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est que déjà, personne ne la connaît. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sur C'est à vous, je sais pas quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est bizarre, mais ça arrive souvent chez France Télé. Voilà, potentiellement, je remets des guillemets. En vrai, elle a un retour de bâton parce que si je me suis bien documenté, il y a quand même une vidéo qui commence à tourner d'elle qui dit que la cocaïne c'est mal et que c'est illégal. Oh, c'est bizarre. Donc apparemment, c'est illégal pour tout le monde sauf pour elle. Comme certains députés
de LFI. Ouais.
Est-ce que la vie privée d'une personnalité publique s'arrête-t-elle où commence l'intérêt du public à le savoir?
Oui, mais Armand, c'est pour revenir à ce que vous aviez dit la dernière fois sur Marine Le Pen. Mais quand on passe son temps à donner des leçons...
Oui.
Voilà.
Bah oui.
Armand.
Moi, je pense que c'est ça. Le problème, c'est le deux poids, deux mesures et le double discours. C'est-à-dire, d'un côté, on punit et le jour où on est attrapé avec, mea culpa, il faut avouer. En soi, est-ce que l'affaire est en soi très intéressante? Moi, effectivement, je la connaissais pas non plus. J'ai juste regardé ses déclarations.
Oh là, c'est pas ce que vous disiez avant.
Non,
pourquoi est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que les gens ont quelque chose à faire?
Moi, j'ai
vu que les gens avaient beaucoup commenté cette affaire sur les réseaux.
Pour être très franc, j'ai jamais été dans le star system qu'on en appelle, c'est-à-dire regarder les potins et autres. Non, mais regarder les potins sur les stars, ça m'intéresse pas beaucoup la vie privée. Si. Moi, je regarde surtout. Personne la connaît, c'est pas une star. Non, mais je veux dire les personnalités publiques. Je sais pas. Ce qui se passe dans le privé ne m'intéresse pas vraiment. Après, elle a commis un délit, elle sera sûrement sanctionnée. Si elle l'a commis, puis voilà, la vie continue et la justice de ce pays continue.
Elliot,
je suis d'accord avec lui. En vrai, c'est une personnalité publique, c'est pas une star. C'est une personnalité publique, elle se doit d'être exemplaire, déjà comme tout citoyen, mais elle se doit d'être exemplaire parce qu'elle passe à la télé et qu'elle a une sorte de...
responsabilité.
Oui, elle a des responsabilités, mais elle a surtout elle donne une morale sur ses émissions. À partir de ce moment-là, si tu veux donner une morale, faire la morale à tout le monde, bah à partir de ce moment-là, sois irréprochable.
Je sais pas si
c'est ça.
Je sais pas si vous avez vu passer ça aussi, c'est l'influenceur Aquababe qui a sorti une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu passer, Elliot, une vidéo d'une jeune influenceuse aussi en train de prendre de la coke dans une boîte de nuit.
D'accord.
Est-ce que vous trouvez ça choquant? Est-ce qu'on doit... Je sais pas si vous connaissez un peu ce que fait Aquababe.
Oui, Aquababe. Ouais.
Mais il partage en masse pas mal de vidéos que les. On va en parler pour ceux qui ne connaissent pas.
La nana en question.
Oh, on s'en fout. C'est pas le problème. En vrai, c'est encore des gens qui sont inconnus ou semi-connus. En vrai, le problème, c'est que.
Non, mais
c'est générationnel.
Non, mais est-ce que pour vous.
Relayer ce genre d'informations, c'est pertinent.
C'est pertinent, voilà.
Bah, pertinent, non, parce que déjà, il y a des gens qui sont assez bêtes dans ce pays pour dire ah bah, il fait ça, donc il faut que je le fasse parce que c'est cool. Si c'est une influenceuse, donc ça c'est le premier problème. Deuxièmement, on va pas devenir comme la Chine et sponsoriser les gens qui font de la délation, mais normalement c'est pas à mettre sur les réseaux sociaux, c'est à donner à la police. Voilà, moi il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui on est dans un pays et on est dans un monde où tout est réseaux sociaux, ils font montrer tout parce qu'il faut dire bah, telle star elle est là, tel truc elle est ici. Enfin, c'est insupportable. On pointe du doigt des choses. Enfin, vraiment lambda, et on pointe des choses graves aussi. Et ces choses graves, normalement, elles devraient pas être pointées sur les réseaux sociaux à la vue de tous. Elles devraient être données aux personnes qui sont concernées, c'est-à-dire la police.
Oui, je suis d'accord, mais on va plus sur le sujet de fond, c'est de savoir. Alors, tout le monde prend de la coke, etc. Ou de la drogue, pardon, dans ces milieux-là. Ok, ça détourne le débat.
C'est une généralité. Ça.
D'ailleurs, le présentateur Christophe Bondelat a vivement critiqué la diffusion de cette information en reparlant de la journaliste que personne connaît, jugeant qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée.
C'est vrai. C'est vrai qu'il s'agit d'une attente à la vie privée. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec ça. Parce qu'en fait, dans les deux cas, que ce soit Aquababe ou Thomas Guérin, qui fait un très bon travail.
Clément Guérin,
qui fait un très bon travail, d'ailleurs, en règle générale. Mais en fait, pourquoi il dit eux diffusent ces informations? Eux, ils diffusent ces informations pour le buzz, pour l'argent. Enfin, il y a plein de raisons qui sont autres que celles d'aider cette personne. En fait, si on a l'info, peut-être que, en l'occurrence, elle a la jeune fille en boîte de nuit. Si c'est son ami qui l'a filmé, ou je sais pas, ils ont sûrement une relation, vu qu'il est aussi sur le milieu Snapchat, etc. La première chose à faire, c'est peut-être d'aider la personne avant de vouloir, la mettre sur le tribunal populaire.
Armand a raison, parce qu'il y a une notion que j'ai pas donnée aussi, mais c'est que les réseaux sociaux, sur certains réseaux sociaux, on a par exemple Snapchat qui rémunère pour des contenus courts et qui vont être vus massivement, peuvent rémunérer jusqu'à 100, 200, 300, 500 euros.
Il y a deux points, c'est très juste, mais aujourd'hui, même quand il y a des faits graves, où il y a un attentat, etc., où il y a une agression, premier réflexe des gens, on sort le téléphone. Vraiment.
Oui, mais ça c'est
générationnel.
Ouais, on commence à faire du hors-sujet comme d'habitude avec David. Très chers auditeurs, n'oubliez pas que Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. Merci d'être avec nous et de nous soutenir. On se retrouve juste après notre annonce.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner. La gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Vous écoutez toujours Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, nous espérons que vous passez de bonnes vacances, en tout cas nous oui, car nous sommes avec vous tout l'été. Restez avec nous car nous repartons pour 40 minutes d'émission. La canicule et son lot de nouvelles idées venues d'en haut après trois vagues de chaleur en quelques semaines. Un article de The Conversation vante le concept de refuge climatique, des lieux frais où les habitants pourraient venir se réfugier. Une bonne intention sur le papier, mais qui pose une vraie question. Est-ce vraiment ça la solution ou est-ce qu'on est encore en train de compliquer un problème simple, Armand?
Bien sûr qu'on est en train de compliquer un problème simple. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que l'écologie doit quand même s'emparer d'un autre sujet en parallèle, et je pense qu'il pourrait être salvateur, ça c'est un avis personnel, qui est celui de la technologie, de l'avancement, du progrès et de l'IA. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'IA, on a la chance d'avoir de nouvelles technologies qui se développent. Il faut accepter de climatiser l'ensemble des populations qui en ont besoin, de créer des vrais refuges, mais chez soi, personnels, également dans les hôpitaux, dans les établissements publics et autres, et commencer petit à petit à travailler sur les sujets environnementaux, mais en corrélation avec les progrès technologiques, et arrêter d'être technophobe à tout prix et de se dire que c'est avec des arbres qu'on va sauver. Évidemment qu'il faut continuer la végétation, mais en parallèle, il faut surtout pas délaisser le confort et surtout la santé publique.
Moi, j'ai regardé la vidéo de Clément Beaune qui dit oui, il faut prendre exemple sur la ville de Madrid qui met à disposition donc une carte interactive où vous voyez les endroits où il y a des endroits de fraîcheur.
Climgo.
Mais ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des mecs qui veulent financer les projets de leurs copains d'école de commerce.
Exactement.
Non, mais c'est vrai, c'est une classe complètement déconnectée, qui veut faire marcher des pauvres gens qui ont 80 ans, qui n'arrivent même pas à aller dans leur supérette en bas de chez eux. Exactement. Pour aller s'acheter une bouteille d'eau. Mais par contre, ils veulent se réunir, voilà, ces gens-là, à des kilomètres, marcher. Donc en fait, le trajet que tu fais, arriver là-bas, t'es mort. Donc il faut qu'on te réanime. Mmh. Donc ça sert à rien de créer des espèces de refuges climatiques. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Armand. Des clims, c'est ce qu'il y a de plus simple, ça, plutôt que de vouloir créer des projets d'école de commerce.
Est-ce que vous pouvez quand même dénoncer ces gens-là? C'est-à-dire que ces gens-là disent on va créer des refuges climatiques. Clément Beaune, il me semble, était candidat à la mairie de Paris. Ces gens-là, en fait, sont pour la bétonisation, etc. Ils font partie de tous ceux qui ont voté la place de la République, c'est bétonisé. La Concorde, c'est bétonisé. Maintenant, ils veulent faire le Trocadéro aussi, ça va être bétonisé.
La Concorde, ils ont prévu un plan pour revégétaliser tous les contours.
Sauf qu'il n'y a plus de voitures.
Sachant une chose, c'est que les points fraîcheurs, enfin, les gens ne sont pas idiots, il faut arrêter de les prendre pour des abrutis qui ne savent pas gérer leur propre vie. Les points fraîcheurs dans les différentes municipalités existent. On sait qu'il y a une fontaine sur la place de la mairie en général ou des choses comme ça. Les gens sont conscients de ce qu'il y a, de ce qui existe. Ils savent très bien qu'il faut aller au parc pour avoir un peu plus de fraîcheur, avoir des arbres. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis, il faut arrêter de gaspiller de l'argent public dans des projets qui sont complètement
frétiles. J'ai l'impression qu'on vit dans un pays sous-développé.
Exactement.
C'est-à-dire que c'est vraiment c'est tiers-mondisation de la nation.
Et moi, c'est l'abrutisation de la population qui me
dérange. Déjà, il y a un problème de tiers-mondisation de la France. Hein. Mais en fait, moi, je ne comprends pas les écologistes. En fait, les écologistes, normalement, ils doivent prendre ce qui est bon dans les nouvelles technologies et adapter ça avec leur vision. C'est pas... on va arrêter l'IA parce que ça surproduit de la chaleur et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez pouvoir reprendre des cahiers. Qu'est-ce qui surproduit le plus? Enfin, on va brûler plus de forêts pour pouvoir faire des cahiers et puis on va enlever l'IA. Je comprends pas.
Vous êtes naïf. Vous savez très bien que écologistes aujourd'hui prennent la décroissance.
Après, il faut pas s'étonner si on va dans le mur. Faut arrêter. Peut-être que les gens soient un peu plus logiques. Le problème, de toute façon, c'est toujours la même chose.
Armand et ensuite David.
C'est ce que je disais, c'est la technophobie effectivement de certains écologistes qui est problématique parce que
ils ont eux la clim.
Oui, leur objectif c'est la décroissance, mais en fait la décroissance à tout prix n'a aucun sens parce que en décroissant, on va aussi perdre énormément. Et je parle pas forcément du niveau de confort de vie, je parle aussi en termes écologiques. Effectivement, vous l'avez rappelé, de bétoniser Paris comme ça a été fait, bétoniser Bordeaux qui avait été repris à un moment donné par les écologistes, même à Lyon, etc. Enfin voilà, il y a plein de villes où en fait la gauche écolo est arrivée au pouvoir, et elle a fait l'inverse de ce qu'elle avait promis. Alors on reproche souvent à la droite, elle est anti-écolo. Moi, je vous invite à regarder les différentes communes qui sont gérées par la droite. Et ben en fait, vous verrez que la majorité des villes sont des villes fleuries.
Je suis d'accord, et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait il y a deux ou trois ans, il y a un plan dans une ville dans un centre-ville qui avait été mis en place avec beaucoup d'arbres autour et des bouts de bois pour ramener de la fraîcheur. Genre, il y avait des arches.
Oui.
Sauf que entre les arches.
Fraîcheur,
ouais, entre les arches, il y a le soleil qui passe. Donc en fait, t'as un mètre d'ombre, sur 2 km, et là, tu te dis. Ah bah c'est très logique, c'est très bien. En fait, on vit zébré pour avoir de l'ombre. Non mais c'est complètement aberrant, c'est débile. Et en vrai, on va pas se mentir, on produit 1% de la pollution mondiale. 1%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on est insignifiant même en pollution.
Non mais on peut mieux faire.
Donc, on peut toujours mieux faire. Mais il y a un moment, tu prends les trucs logiques. Non, bah tu sais quoi, il y a des solutions. Tu repeins avec la peinture qui permet de bloquer la chaleur. sur tous les toits, déjà tu vas baisser.
Progrès technique.
Enfin, c'est des progrès techniques.
Tu
vas baisser la température des toits de Paris.
Enfin, ben oui.
Ça c'est un truc très simple. Mais végéter.
Oui, enfin, après tu ramènes les moustiques, c'est relou. Il y a un moment tu réfléchis. Il y a tous les toits, tu les végétalises. Pas tu vas ramener les moustiques.
Tu végétalises les toits des bâtiments publics, c'est déjà très bien. C'est une mesure écologique.
Les hôpitaux normalement, c'est enfin en fait.
Ne pas climatiser les hôpitaux, c'est une honte.
Non mais cette mesure en fait, elle est faite comme pour les EHPAD, c'est-à-dire qu'il y a un lieu où il y a du frais dans tous les EHPAD. Et en fait, on va faire ça dans nos villes.
Parce qu'en France, on veut tuer les vieux.
Mais c'est
non,
sûr.
Mais vraiment.
Ah, vous revenez vers moi. C'est non, très c'est... bien ça.
Non, en France, on veut tuer les gens. Suicide assisté, avortement. Voilà, on veut tuer les gens.
Natalité.
Ouais,
c'est croissant.
Elliot a soulevé un point extrêmement important.
On coûte trop cher, les Français coûtent trop cher.
C'est vrai que ces structures qui sont construites par des technos qui ne voient même pas la réalisation de leur structure, c'est-à-dire que vraiment, c'est sur papier, c'est de la technocratie pure. C'est fait dans des bureaux. Et en fait, la réalité concrète et l'usage concret, ils le voient même pas.
Exactement,
avant la finition.
Sûr,
donc effectivement, il y a plein de structures comme ça où en fait on se dit pourquoi faire ? Combien ça a coûté ?
Mais parce que c'est très simple, ces gens-là, ils se réunissent dans des petits bistrots un peu.
Ah, même pas.
Non, un peu conceptuel, tu sais.
Une
ancienne gare aménagée.
Ouais,
puis ils sont là, ouais, moi je viens de créer un truc assez sympa, je viens de lever 2 millions. Je sais pas ce que je veux en faire, mais toi, vu que t'as des potes à la mairie, on peut essayer de faire un truc. Et puis après, voilà, et après ils s'organisent entre eux, ils arrivent à trouver des failles, des financements de l'État. C'est comme dans le cinéma avec le CNC, voilà, c'est des gens qui se partagent des tuyaux.
Et ça donne la gare de Nantes qui exactement la gare de Nantes qui est un four. Excusez-moi de parler.
Non, mais ça donne surtout un immeuble rempli qu'ils ont fait il y a pas très longtemps. Je crois que c'est en Île-de-France.
Ah, la baie vitrée.
La baie vitrée entièrement.
La gare de Nantes. Attends. La tour triangle.
Voilà. Okay,
voilà.
La tour triangle.
Le tribunal judiciaire de Paris.
Oui.
Voilà. La canopée, la des Halles. Tout ça. Vous savez que la canopée des Halles, quand il pleut, ça transperce. Ça veut dire que ça protège même pas de la pluie. Voilà. Voilà. C'est comme vous avez dit, des projets qui sont de gens qui sont déconnectés dans des
bureaux. Tiens, en parlant de gens déconnectés, une décision qui fait exploser l'Assemblée nationale. Vendredi dernier, les députés ont rejeté l'article d'une loi qui prévoyait la perpétuité, pardon, pour les violeurs en série de mineurs de moins de 15 ans. Et ce sont des voix de gauche, LFI, écologistes et une partie des socialistes qui ont fait basculer le vote. Est-ce qu'on peut encore parler de surenchère pénale inefficace quand il s'agit de violeurs en série, de bébés et d'enfants ? Ou est-ce que la gauche s'enferme dans une posture idéologique déconnectée du bon sens et de l'opinion, y compris de son propre électorat ? David ?
Non, mais écoutez, je vois pas ce qui vous surprend en fait.
Toujours le même problème.
Non, c'est pas toujours le même problème.
C'est toujours le même problème.
Non, ces gens sont cohérents.
Bah oui.
Voilà. C'est tout. Qui a signé une tribune pour les petits-enfants, tout ça, Jack Lang, etc. Et comment il s'appelle, Daniel Cole ? Mais non, mais je suis désolé, c'est je vais y arriver. Philosophiquement parlant, ces gens-là sont cohérents. Point.
Armand.
Ah, j'irai pas jusque-là. Ah. Moi, j'ai écouté la défense des députés et les filles de leur raison, de leur choix. Selon eux, c'est parce que 30 ans, c'est déjà beaucoup et que la perpétuité n'a aucun sens. Parce qu'il y a déjà, ils sont pour une peine longue durée, mais pas la perpétuité, etc. Leur raison est complètement débile, vraiment. Leur défense était terrible. Effectivement, on parle de protection des enfants. Moi, je ne vois pas le problème de mettre un pédocriminel en perpétuité en prison. Et ils disent que c'est pas dissuasif. Bah si, c'est dissuasif.
Non.
En fait, bah, bien sûr que si. Il faut distinguer la pédophilie et le pédocriminel. Un pédophile, c'est quelqu'un qui a une attirance envers les enfants, qui a un problème.
Il faut qu'on appelle monsieur le député Alexandre Allégret-Pinon pour qu'il nous parle de peine de mort.
Et il y a le pédocriminel, c'est celui qui est passé à l'acte. Je suis désolé. Le pédophile, ok, on peut pas le punir parce qu'en fait il n'est pas passé à l'acte, mais si il a cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, qui est la peine à perpétuité, je pense que ça en dissuaderait beaucoup de passer à l'acte.
Moi je pense que ce sont des gens qui sont complètement détraqués.
Bah, écoutez,
il faut punir sévèrement.
Très bien.
Et malheureusement,
si
il faut faire un choix. Dans une nation, il faut faire un choix. C'est soit ses enfants, soit ses agresseurs.
Il est nuisible pour la société, on l'enferme.
C'est encore dans le sens de pourquoi on ne fait pas d'enfance.
Je rejoins David. C'est vrai que LFI de tradition protège les pédophiles. Il y a une omerta autour de la pédophilie. Là, c'est que très récemment, on a commencé à en parler, mais il y a toujours eu une omerta autour de la pédophilie de par nos dirigeants. Voilà, moi c'est ce que j'observe. Regardez, dans les années 70, Maznev et compagnie qui écrivaient des bouquins, ils passaient à la télé, ils étaient très contents d'en parler. Il y a personne. Non, mais c'était une autre époque, mais c'est il y a pas si longtemps que ça. Et nos parents ont grandi dans cette ambiance-là.
Il y a des constructionnistes où effectivement il y a des pédophiles, parce que c'est des pédophiles qui s'agrègent à ce genre de mouvement. Vous savez, il y avait eu à un moment donné, c'était il y a quelques ans, il y a 3-4 ans, il y avait un phénomène qui était monté, c'était les age fluides. Vous savez, vu qu'on peut être gender fluide, on peut être age fluide.
Oui, on peut sortir avec tous les âges que l'on
notre
souhaite.
Notre âge varie en fonction de la personne.
Donc, si vous décidez d'avoir 5 ans,
je peux à tout moment avoir 11 ans.
D'accord.
C'est un sacré gros bébé.
Donc c'était des mouvements qui avaient essayé de s'intégrer dans les causes LGBT, QIA+, qui les ont virés au final parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait en fait un regroupement de pédophiles. Mais oui, il y a ce genre de cause philosophique qui essaie de s'accaparer certaines causes pour promouvoir la pédophilie.
Elliot.
Moi, j'ai deux problèmes avec le fait qu'on vote contre. Alors, déjà, le premier point, c'est j'ai l'impression qu'on a fait cette loi parce que on sait que la justice est inefficace. C'est-à-dire que on va envoyer quelqu'un en prison. Bon, il va prendre une peine de 15 ans. Il va déjà avoir la moitié qui va être enlevée. Il va faire bonne conduite et on va plus avoir de place. On va le faire sortir au bout de 5 ans. Donc, en fait, c'est une peine pour qu'il reste minimum 30 ans fixé là-bas. Et ça, moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas protéger nos enfants en mettant pendant 30 ans minimum des gens qui sont dangereux. Le deuxième point et le deuxième problème que j'ai avec cette loi, c'est que en fait, on voit parmi des partis d'extrême gauche, hein, donc la LFI, on voit surtout leur problématique à soigner la population et à aller vers le bon sens commun. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas grave si on met pas quelqu'un en prison pendant 30 ans parce que on va le priver de sa liberté, et puis il va pas pouvoir aller au Louvre parce qu'il est en prison, il va pas pouvoir aller au Louvre,
bah si,
et puis il va pas pouvoir.
Souvent ils vont au Louvre en étant en prison.
Et voilà. En fait, il y a un moment, je me dis, en fait, est-ce que les gens qui nous gouvernent, et surtout cette partie de l'hémicycle, comprend qu'ils sont faits pour nous protéger et pas pour nous envoyer en fait au casse-pipe.
Ça en dit c'est beaucoup sur l'état de la nation. Hein. Quand l'état ne sait plus protéger sa population, bah, c'est que l'état est malade. Hein.
On en revient au problème de l'état. Et en fait, on peut pas avoir des députés qui votent contre pour mettre 30 ans en prison minimum des gens qui sont déviants sexuels et qui s'attaquent à des enfants et à des bébés. Et après nous dire, faites des enfants. C'est ça aussi la corrélation. Vous pouvez pas vivre vous pouvez pas avoir une famille quand vous savez qu'il n'y a pas la sécurité qui va avec. Que ce soit chez vous ou à l'extérieur.
Non, mais vous avez vu les discours. Bon, là, on sort un peu du sujet, mais moi, je regarde beaucoup de contenu comme ça sur TikTok. Ça m'affole de voir des jeunes filles de mon âge qui disent que avorter en masse, c'est très bien, que le plus important, c'est nous-mêmes. Il y a une sorte aussi d'individualisme dans le discours de beaucoup de personnes, dans certains groupes aussi, qui fait que, en fait, on a désacralisé l'enfant. Et je pense que c'est aussi à cause de ces choses-là, les trafics d'enfants, etc. Il y a plein de sujets là-dessus, mais aujourd'hui, même quand je vois les débats où des gens se plaignent d'avoir des bébés dans leur avion, mais en fait, je sais que c'est casse-pied d'avoir un bébé qui hurle à côté de toi alors que t'as 8 heures de vol, mais en fait, tu devrais te réjouir d'avoir des enfants qui vont derrière, qui vont derrière s'occuper de nous et payer aussi notre retraite vu que le système est fait ainsi, même si on n'en aura pas. David.
Mais ça va dans le sens des. Non, juste une chose déjà, vous parliez de prison, etc. Vous les mettez où? Il n'y a plus de place dans les prisons.
Mais François, ça c'est toujours pas.
Mais on a qu'à expliquer déjà les binationaux qui sont condamnés.
Ah, mais moi
dans
je veux pas les mettre en prison, c'est juste je répondis à la loi. Hein, mais si on devait aller plus loin.
Voilà, premièrement. Deuxièmement, je vais dans le sens de Baya, ça va dans le sens des. La SNCF là, qui avait fait des wagons No Kids, bon, ils ont dit que c'était pour ceux qui travaillaient, etc. Mais bon, voilà. Ou les hôtels où il y a No Kids, etc. Enfin, c'est très en vogue, quoi.
Moi, je suis assez d'accord avec vous.
Après, je vais rebondir sur quelque chose.
Arrêtez de rebondir.
Non, mais c'est complètement à côté. Mais vous parlez des enfants dans l'avion, c'est dérangeant et ainsi de suite. Quand on crée un espace business, c'est pas pour avoir un bébé dans l'espace business. Je suis désolé.
Mais c'est n'importe quoi.
Bah si.
Business, ça veut business, pas dire que le pour les gens qui travaillent, quand vous voyez tous ces tocards d'influenceurs qui travaillent pas du tout, qui sont en business.
Bah, il est là le problème.
Il faudrait avoir un justificatif. Alors business, je travaille.
Attends. Ah oui, bah, travailler au lieu d'avoir des enfants dans l'air.
Mais non, mais c'est quoi. Non,
attendez.
C'est une attaque personnelle, ça ou
Combien de personnes qui ont les moyens ne mettent pas forcément leurs enfants en business? Il y en a plein. Je vais même vous donner un exemple. La dernière fois,
j'aurais pas aimé que mes parents aillent en business et moi me mettre.
Bah non, mais je vais vous dire. La dernière fois, je regardais une interview de Tony Parker qui a beaucoup gagné sa vie quand il était en NBA et qui dit, il y a un moment, j'ai amené mes enfants en business, ils avaient 7, 10 ans. Et en fait, ils ont pris la confiance. Ils ont pris la confiance et il y a un moment, je suis arrivé à l'aéroport, ils pensaient venir dans la file pour aller en business. J'aurais dit, vous allez en économie.
Mais c'est pas de l'éducation, ça, c'est n'importe quoi.
Vous allez voir ce que c'est que la vraie vie, vous allez arrêter de croire que votre argent, c'est mon argent.
C'est un nivellement par le bas et c'est une manière populiste de justifier de sa fortune et se dire regardez, moi aussi, j'ai encore des principes.
Surtout qu'en rentrant à la maison, il aura la piscine.
Oui, non, mais c'est n'importe quoi.
Bah,
tu dors dans la maison du gardien.
C'est ça. Tu seras mal assis pendant le vol, mais à la maison, t'inquiète, ta piscine sur le toit, etc. Ça n'a pas de sens.
Tiens, on va parler d'un sujet que vous attendez, Barbara Butch, votre meilleure amie, Armand.
Ah, moi, ma meilleure amie, non, mais loin de là, mais
Mais des points communs.
Mais bon,
un concert arrêté au bout de 20 minutes. Et une polémique qui embrase la classe politique. Samedi soir à Grenoble, la DJ Barbara Butch a vu sa prestation interrompue par des militants pro-palestiniens dans le cadre d'un boycott soutenu par la France insoumise. Accusation d'antisémitisme, plainte de la mairie. Et les filles qui se défendent ont fait le point sur une affaire qui ne cesse d'enfler. David, je sais que vous attendez ce moment avec impatience.
En fait... Je suis mitigé parce que j'ai à la fois de la peine pour elle et en même temps c'est bien fait pour elle. Parce que j'ai de la peine pour elle parce que elle a toujours vécu dans ce milieu-là de gauchiste, etc. Et puis la révolution mange ses enfants, donc voilà. Et ça me fait amener à c'est bien fait pour elle. Elle s'est désolidarisée en fait de ce qu'elle a signé. Oh, je suis contre la loi Yadan, hein, d'accord. Elle a signé la loi Yadan et après elle est revenue dessus parce que elle a reçu beaucoup d'insultes, etc. Mais
juste pour les auditeurs hein, qui n'ont pas suivi, ce boycott était appelé depuis le mois de mai, notamment par la section grenobloise de la France Insoumise, qui reprochait à l'artiste d'avoir signé une tribune en soutien à la proposition de loi Yadan contre l'antisémitisme, un texte finalement retiré par le gouvernement.
Donc je dis bien fait pour elle parce qu'elle s'est soumise. Voilà. Et qui se soumet, voilà le résultat. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Laurent Nunez a condamné hein, l'interruption du concert dénonçant l'antisémitisme et l'intimidation.
Mais c'est très bien, mais ces gens-là dénoncent, ces gens-là disent en plein soutien, etc. Ils font quoi concrètement? Voilà, rien, c'est bien fait pour elle.
Armand.
Je ne serai jamais du côté de l'agresseur, mais toujours du côté de l'agressé. Donc je soutiens Barbara Butch. Je pense que. je pense que c'est assez déplorable de ne pas l'avoir laissée. C'est une artiste. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'avais déjà exprimé mon avis là-dessus. Je déteste totalement ce qu'elle fait.
Elle a quand même reproduit une scène importante de la Bible. Donc honnêtement, elle est plus qu'attaquable.
C'est pour ça que je dis que je déteste complètement ce qu'elle fait et ce qu'elle représente. Cependant, elle a le droit. Elle a le droit de s'exprimer. Moi j'ai toujours été pour la liberté d'expression. Bon, elle a été huée. En fait, ça traduit quelque chose, cet événement, il traduit quelque chose.
Convergence des luttes.
Exactement, l'échec de la convergence des luttes. Les convergences des luttes marchent lorsqu'il y a une lutte qui domine l'autre. Et lorsqu'en fait, il y a ce genre de spécificité dans cette convergence de luttes qui apparaissent, eh ben, il y en a forcément un qui est sacrifié. Et c'est souvent le même qui est sacrifié.
À force d'être pour tout, on est pour rien. En fait, ces gens-là sont pour tout.
Mais parce qu'ils ont abandonné un truc qui s'appelait la lutte des classes, qui était cohérent, qui était un ensemble global pour des micro-individualités. Tout à l'heure, on parlait d'individualisme, on est complètement là-dedans. C'est des petites causes individuelles qu'on défend.
Est-ce que vous pouvez préciser là de quelle lutte on parle? Parce qu'elle, elle représente quoi et eux représentent quoi?
Bah elle représente la cause LGBTQIA+.
Voilà, chicken for KFC.
C'est ce que j'allais dire. Elliot.
Je pense que j'ai assez dit sur Barbara Butch la dernière fois en disant que je ne tolérais pas plein de choses. Mais en fait, je ne comprends pas. Qu'on puisse venir saccager encore en 2026, et pas que pour elle, hein, des prestations artistiques, étant dans la musique. Non, je déconne.
Il a fait la place.
Non, mais Elliot Grand DJ, retrouvez-le tous les samedis, DJ résident à Versailles.
Je rigole, mais en vrai, je ne comprends pas qu'on puisse encore intervenir comme ça. Et en fait, le problème, il est que, parce que vous n'avez pas expliqué vraiment tout le truc. Elle est juive, elle est LGBTQIA+.
Oui, c'est vrai.
Elle se représente... elle a représenté, du coup, comme l'a dit Baya, la scène de la Bible pendant les JO. Elle a été contestée. Elle a gagné l'appel d'offres, qui a duré 3 jours. Bizarre. De la mairie de Paris pour mettre en place la nuit blanche.
La nuit blanche, ouais.
Et en fait, on arrive là aujourd'hui avec... Elle fait des concerts, comme toutes les personnes, tous les artistes pendant l'été. Elle fait des
artiste
concerts.
Artiste, hein, non, mais excusez-moi.
C'est une artiste. C'est une artiste.
Pas, ça reste une artiste.
C'est une artiste. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une artiste. Voilà.
Donc, si on avait fait une représentation anti-musulman, je peux vous promettre que l'idée de vouloir faire un concert n'aurait jamais existé.
Non, mais c'est même pas ça. C'est juste que là, la problématique, elle est que, déjà, pour la LFI, elle est entre deux problématiques. Elle est LGBTQIA+, donc normalement elle est de leur bord, et en même temps elle est juive. Elle est juive, donc elle peut pas être avec eux, parce que comme elle soutient un peu Israël, même si elle est contre la politique, on va faire un amalgame de dire elle est contre.
Et c'est désolidarisé alors, Elliot.
Bah oui, mais alors, du coup...
Pour vous c'est de l'antisémitisme, David?
Mais bien évidemment.
Mais
attendez, pas tous en même temps.
En se désolidarisant de cette tribune... Voilà, enfin, elle a compris. Que tu soutiennes ou pas Benjamin Netanyahu ou pas, peu importe, Israël, pas Israël, ces gens-là font pas la différence. Voilà. Ces gens-là ne font pas la différence. Donc, c'est bien fait pour elle. Elle n'avait pas à se désolidariser. Et maintenant, que ce soit Benjamin Netanyahu ou un autre, ça sera toujours le même problème. Donc, je dis pas qu'il faut soutenir, fallait qu'elle soutienne et dise « je soutiens Israël absolument », etc. Mais en se soumettant, voilà le résultat.
Est-ce que c'est un deuxième chèque ?
Cette convergence des luttes dont je parlais tout à l'heure, elle est en réalité extrêmement fragile. Et ça nous le montre de nouveau que c'est extrêmement fragile. En fait, cette convergence des luttes ne tient qu'à une chose, c'est ce fameux ennemi qu'ils ont fabriqué qui est l'extrême droite. Si on enlève de l'équation l'extrême droite, il y a, je pense, des débats internes à avoir dans ces convergences qui vont mener à quelque chose de très catastrophique in fine, parce que je pense qu'il y a énormément, énormément de points de désaccord et même de rupture dans ces luttes. Exactement, ce cas-là, c'est Barbara Butch qui est effectivement sioniste, qui reconnaît l'État d'Israël et qui est pour l'État d'Israël. Et ben, elle se retrouve face à des gens de la LFI totalement anti-sionistes.
Elle a dit je suis contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu.
Elle
n'avait
pas le choix.
Voilà, mais c'est bien
elle
n'avait
plus
elle.
Le choix pour,
ben
pour continuer à exercer, elle n'a plus trop le choix.
Moi, j'ai juste une question personnelle sur ça et qui va un peu déborder, mais je veux juste savoir. Maintenant qu'on le sait depuis plus de 2 ans que la LFI est comme ça, qui vont attaquer toutes les personnes qui soutiennent Israël ou alors toutes les personnes qui sont contre eux et
ils vont dire un mot qui sort de leur cadre.
Ouais, voilà, qui sort de leur cadre. En fait, moi j'aimerais juste qu'on revienne un peu de 2 ans en arrière. Je sais pas si vous vous souvenez à cette période-là de l'année. Il y a 2 ans en arrière, on a voté pour des députés. Il y a eu les législatives anticipées. Et on a un groupe comme le PS, comme les Verts, qui se sont ralliés à des gens de la LFI, qui ont fait un groupe.
Le NFP.
Exactement, le NFP. Il y en a qu'un seul qui s'est en fait levé contre, c'est Jérôme Guedj. Mais toutes ces personnes qui sont au PS aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent encore se regarder dans la glace?
Bravo, merci.
Avec des gens qui font ça 2 ans après. C'est ça, moi, mon problème. Il est de se dire, on va vers une élection présidentielle où vous allez avoir tous les groupes qui vont présenter des gens. Et il y a des groupes à gauche qui ont fait une alliance.
Et qui la referont sûrement
aux législatives. Et qui la referont aux législatives potentiellement. Et qui ont essayé de la refaire pour les élections présidentielles. Mais qui vont se présenter en ayant une casserole aussi grosse. Et je ne comprends pas qu'on ne les entende pas aujourd'hui. Ils doivent se désolidariser normalement.
Mais non, ils ne peuvent pas. C'est leur électorat, Elliot.
Mais ils ne peuvent
pas. Ils ne peuvent pas. C'est bien fait pour tous ces gens-là. Il y a d'ailleurs même le cousin de Meir Habib, David Habib aussi, pareil aussi, qui s'était désolidarisé. Maintenant,
il attaque en personnel.
Non, j'attaque pas en personnel, mais tous ces gens-là, ils ne peuvent pas. C'est leur électorat. C'est comme. Bon, j'étais obligé de le sortir. C'est comme Julien Drey. Voilà, il a commencé à SOS Racisme, mais regardez aujourd'hui où il est, à CNews. Mais il ne peut pas aller plus loin, alors qu'il pense exactement la même chose que Jérôme Guedj, David Habib et tous ces gens-là. Ben oui, comme Barbara Dutch, Butch. Oui, ben Butch. Ben voilà, c'est bien fait pour eux.
Ça, c'est
voilà.
Le privilège de l'âge.
On peut être juif, pro-Israël et de gauche?
Oui, il y en a plein.
Oui.
Mais à terme, c'est-à-dire voter LFI.
Bah non, justement.
Après,
bah
ça veut dire quoi pro-Israël aussi? Il faut définir aussi les termes. Est-ce que c'est sioniste?
Armand, quel que soit que tu dises, je soutiens le droit d'Israël d'exister. Ah, merci, c'est fort. Ah, moi, je soutiens le droit de la France, de la principauté de Monaco.
C'est pas pareil, monsieur.
Deux poids, deux mesures. C'est pas relativisme. C'est pas relativisme.
On part pas un pays qui a 2000 ans d'histoire et un pays qui a 2000 ans d'histoire.
Armand, vous n'êtes pas d'accord.
La seule démocratie d'ailleurs du Moyen-Orient.
Armand, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire David.
C'est une boutade que je faisais à David et plus un petit pic amical qu'autre chose, mais on peut pas comparer la France qui a 2000 ans d'histoire à Israël qui a été créée en 48. Bon, un peu de
la seule démocratie du Moyen-Orient.
Rester humble, monsieur.
Non, on attend toujours qu'il y ait aussi une opposition au Liban, qu'il y ait une opposition en Syrie, qu'il y ait une opposition en Égypte, du Maroc.
Mais vous comparez ça avec la France, moi, excusez-moi.
Non, mais faut arrêter de le relativisme. Donc quoi,
il a mérité sa carte de séjour. Attends.
Faut savoir rester humble, hein, on compare pas à l'incomparable. Non, plus sérieusement, blague mise à part, effectivement, moi je suis d'accord, c'est que dès que quelqu'un reconnaît même juste l'existence d'Israël, voilà. Quelqu'un qui est du coup sioniste qui signifie reconnaître l'existence de l'État d'Israël, pour LFI, il est éliminé. Pour une partie d'LFI, en tout cas, du coup, il est éliminé.
Non, pas pour une partie, pour tous.
Peut-être pas pour tous, il y a quand même des nuances.
Bon, ceux qui étaient nuancés, ils se sont fait virer.
Non, mais il y en a qui sont encore pour deux États et autres, donc je pense qu'il y a encore un peu de nuances au sein même de la LFI. Mais en tout cas, moi je fais toujours le distinguo, et j'essaie de le faire le plus possible, entre les députés et effectivement l'électorat. C'est quand même deux choses différentes. Les députés sont obligés d'être parfois mesurés. Bah si, les députés de LFI, ils tentent malgré tout d'être à peu près mesurés. Parce qu'ils sont députés de la République. Par contre, leurs électeurs...
À peu près mesurés, ils rentrent dans l'Assemblée nationale avec des drapeaux propalos. Tu dis à peu près mesurés.
Bah, dans leur déclaration, est-ce qu'il y a des députés qui ont tenu des propos antisémites? Des
non,
députés et des filles.
Non, non, mais juste des gens qui disent « Moi, voilà. Je ne peux pas dire qu'un tel est terroriste, bah voilà. Que celui-ci, celui-là. » Mais non, c'est des gens qui ont des propos mesurés.
C'est pour ça que je te dis ça. Ils essaient d'être mesurés dans leurs discours parce qu'ils savent très bien qu'il y a des discours qui ne passent pas.
Parce qu'il y a la justice derrière, c'est tout.
Parce qu'ils sont députés de la République.
Il ne faut pas être condamné.
Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à leurs électeurs plutôt qu'aux députés eux-mêmes. Parce que les députés sont aseptisés. Voilà, oui, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant. Et on voit que dans le discours de leurs électeurs, à partir du moment où Israël a le droit d'exister comme un État, ça y est, vous êtes éliminé.
Armand, il y a un truc que tu prends pas en compte, c'est plus simple d'être mesuré pour pas aller devant la justice et pas avoir une plainte ou un jugement qui est contre un électorat. Parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec Éric Zemmour, c'est qu'on lui rappelle toujours qu'il a été condamné.
Et il l'a été.
Et il l'a été. Mais en vrai,
vous avez vu, Armand, c'est un bon soldat de la justice. Hein.
Ah oui.
Non, je sais pas qui vous paye, mais.
On a tous eu un problème avec la justice, on l'a tous accepté.
La LFI fait des sorties border, enfin, fait des sorties qui sont à la limite, voire très, très, très à la limite.
Surtout dans la défense de terroristes, parfois.
Exactement.
De gros terroristes, complètement.
Donc. Ils sont jamais jugés. Ils ont des gens.
Ils ont des procès.
Non, mais ils ont des procès. C'est facile d'avoir des procès, de les faire pousser jusqu'à la dernière minute. Donc, ils ne sont jamais jugés. Ils ont des députés qui achètent de la drogue à des mineurs. Ils ne sont pas jugés. Ils ont des députés qui frappent leurs femmes. Bon, ils sont jugés à moitié et ils reviennent comme des cadors. Donc, il y a un moment, moi, je veux bien, mais.
Comment ça, pauvre Katniss?
Non, mais je veux dire, non, c'est ironique.
Ah, oui,
c'est
non, mais... Non, mais... Ah, ouais, quand même, parce que je suis mort.
J'étais contre la loi Adam.
Un dernier mot, Elliot.
Juste pour finir, au final, il ne leur arrive rien. Vous avez des gens à droite, ils peuvent avoir juste une erreur de virgule, ils se font défoncer.
Non.
Juste un mot, en fait, là où je peux rejoindre Elliot, c'est que la condamnation sociale n'est absolument pas la même à droite qu'à gauche.
Mais vous êtes déjà condamné quand vous dites que vous êtes de droite.
Voilà.
Alors,
la condamnation sociale, effectivement, est complètement différente. Ça,
tiens, encore un renoncement qui ne dit pas son nom, alors que la France ferme les yeux sur un journaliste français emprisonné à Alger et sur le manque total de coopération algérienne en matière d'expulsion. L'ambassadeur français annonce vouloir rouvrir grand les vannes des visas, 250 000 par an, comme si de rien n'était. On fait le point sur ce nouvel exemple de diplomatie à sens unique. Voilà, donc c'est l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, qui a annoncé le 15 juillet vouloir revenir à 250 000 visas annuels pour les Algériens, soit le niveau d'avant la baisse décidée en 2021. David, je sais que vous avez bien.
Non, mais j'ai écouté cette interview là de l'ambassadeur de France en Algérie. C'est à côté, Gad Elmaleh peut aller se coucher. Il dit, mais vous comprenez, on est obligé de reprendre l'octroi de visa parce que quand un businessman algérien se trouve coincé et qu'il n'a pas les autorisations nécessaires. Bah, je savais pas, moi, qu'il y avait des businessmen algériens. Non, mais je savais pas qu'ils avaient supplanté les businessmen américains. Bah, moi, on m'a pas prévenu. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, voilà, c'est l'aplaventrisme. Il faut rappeler que avant 2012, les visas, l'octroi de visa par la France avait été passé sous la barre des 200 000. Quand c'était François Hollande, donc de 2012 à 2017, on était passé à 400 000. Après, en 2017, quand il y a eu un nouvel ambassadeur, on est passé sous la barre des 100 000. Et puis après, il y a eu la fameuse crise. Et là, on est reparti. La fameuse crise a commencé quand, on rappelle rapidement la chronologie, quand Gérald Darmanin a dit... On va bloquer les avoirs algériens, on va bloquer les visas pour les VIP algériens en contrepartie de laissez-passer consulaires pour l'exécution des fameux OQTF, les 150 000 OQTF, dont les 15 000 qui sont à peine exécutés quand il n'y a pas de recours administratif. Il avait tapé du poing sur la table. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie n'était pas contente, elle a dit, eh ben, vu que Gérald Darmanin nous gèle les avoirs, bloque les visas pour les VIP, etc., eh ben, on va encore donner encore moins de laissés consulaires. Et on s'est soumis. Et on continue. Voilà. Et on continue. Pire, on a octroyé l'ouverture de 2 consulats supplémentaires en France, à Melun et à Rouen. Voilà. Et quelle contrepartie? Aucune. On n'a toujours pas de laissez-passer consulaire pour les OQTF. On continue l'aplaventrisme et la soumission. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron et tout le gouvernement, etc., ces gens-là ont peur. Ont peur de quoi? De cette population algérienne ici qui fait la loi. Ils ont peur de dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Mais attendez, scandale qui régularise des gens qui sont arrivés
illégalement.
Illégalement. Beaucoup de mal avec ces termes.
Ouais. Sur le territoire français? Voilà, ces gens-là ont peur.
Armand.
Moi, je pense que je rejoins ce que dit David. C'est un bras de fer qu'on a avec l'Algérie depuis pas mal de temps, depuis trop longtemps. C'est un bras de fer qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Bruno Retailleau a eu parfois des propos qui étaient très justes, notamment sur ce bras de fer. Et effectivement, on a un problème de courage diplomatique. À un moment donné, l'Algérie, aujourd'hui, prouve tous les jours qu'elle n'est pas notre allié. Tous les jours, elle ne cesse de nous prouver qu'elle est plutôt notre ennemi plutôt que notre allié. Ce qui est assez dommage, parce que c'est quand même un pays avec qui on a une histoire... parfois très dramatique.
Alors,
et parfois...
excusez-moi, je vous coupe, mais l'allié de certaines personnes en France,
C'est-à-dire...
Ségolène Royal. Vous avez vu le voyage de Ségolène Royal là-bas, elle est poussée par l'Algérie.
De la députée Sabrina Sebaillé aussi, où on se demande si elle est encore députée française ou députée algérienne, vu les nombreux déplacements qu'elle fait en Algérie et pour le compte du gouvernement algérien. Mais bon, ça c'est...
Nos très chers émirs.
C'est une accusation pour le moment sans fondement, mais je sais qu'il y a une enquête en cours de Mediapart d'ailleurs sur ce sujet. Pour en revenir au sujet principal, ce bras de fer il dure depuis beaucoup trop longtemps. Je pense que diplomatiquement, on le disait tout à l'heure, de la fermeté. Je pense qu'il va falloir à un moment donné clarifier cette situation diplomatique avec l'Algérie en étant extrêmement ferme sur ce que la France a besoin et sur la volonté française. L'autre point, c'est ces accords effectivement de 68 qui n'ont plus lieu d'être. En fait, on est en 2016. Donc maintenant, ces accords...
26.
On a 10 ans de retard. On est en 2026. Je pense que ces accords de libre circulation, il va falloir y mettre un terme et renouer, ou peut-être les modifier selon les besoins actuels. Mais en tout cas, ils sont plus tenables. Ces accords n'ont plus aucun sens.
Juste pour reprendre, on parle de 250 000 visas. C'est-à-dire que pour cette année, l'année dernière, nous étions à 204 000 visas avec 186 000 courts séjours et quasiment 20 000 de séjours longs. Donc aujourd'hui, on va augmenter de 50 000. Moi, je ne sais pas où vous les mettez, mais déjà, la population française n'arrive pas à vivre. Donc, où vous mettez ces gens-là? Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là qui viennent? Qu'est-ce que vous en faites?
C'est les fameux métiers. Mais j'ai pas envie de rebondir sur ça parce que là, ça va encore plus.
Les métiers pénibles, machin.
Mais oui, c'est les fameux métiers
pénibles. Mais les métiers pénibles, on va en parler tout à l'heure. On va en parler juste après.
Je suis d'accord, mais c'est pas moi qui faut dire ça.
Là où Elliot a un point très intéressant, c'est que 250 000, c'est vrai, quand on annonce le chiffre, on s'en rend pas compte de ce que c'est 250 000.
Ah oui?
250 000, c'est une ville. C'est une grande ville.
Mais bien sûr.
C'est Toulouse, je crois que c'est 300 000 habitants, c'est ça?
Oui.
Oh bah voilà.
Je peux juste rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Armand. Un sur Retailleau, déjà. Et la semaine dernière, j'avais dit que Retailleau était allé parce qu'il voulait devenir ministre, parce que être sénateur, c'est bien, mais en fait, tu
il
vois pas.
Encore défendre Retailleau.
Non, mais tu vois pas. C'est l'un des derniers.
On se demande par qui
derniers...
vous êtes payé, vous aussi.
Non, c'est l'un des derniers qui pensent comme nous à avoir vu en fait ce qui se passait. Et il a dit quelque chose de très juste. Dernière, quand il quitte Beauvau, il va chez Sonia Mabrouk et puis il raconte pourquoi en fait il est parti. Je détenais la possibilité en fait d'expulser les OQTF, mais je n'avais pas sous ma responsabilité la possibilité de ne pas délivrer les visas, parce que les visas c'est délivré en préfecture, mais ça dépend du ministère des Affaires étrangères. Donc il dit à Sonia Mabrouk, j'avais réussi à obtenir de l'Élysée une réunion avec le ministre des Affaires étrangères pour avoir un droit de regard.
Jean-Noël Barrot,
sur...
c'est ça.
Ouais, Jean-Noël Barrot.
Il est pas resté longtemps, lui, il est plus là.
Il est encore là.
Elle est encore là. Parce qu'on l'entendait beaucoup parler il y a quelques temps, et là on l'entend plus
il
du
a
tout.
Fait les 10 ans.
On l'entendait sur l'Ukraine. Oui,
pour dire qu'il a raison et qu'en fait ça tout part de l'Élysée et qu'en fait on ne peut rien. Il y a que l'élection présidentielle, voilà, qui changera quelque chose. Concrètement, il y a des solutions. Voilà, on a voté un règlement retour avec François-Xavier Bellamy et comment il s'appelle, le groupe de Marion Maréchal, le groupe il y avait Sarah Knaff, voilà, Identité Liberté, et le groupe du Rassemblement National. Là, il y a eu une vraie union des droites. Il faut le souligner. Ça. Malheureusement, c'est au niveau
national. L'Union européenne.
Oui, au Parlement européen. C'est passé assez inaperçu.
Il
faut le souligner.
Constitutionnel.
Ce règlement retour, qu'est-ce qu'il prévoit? Il faut dire aux gens que c'est la solution. Si on ne peut pas les renvoyer chez eux, si on ne peut pas exécuter les OQTF et avoir les fameux laissez-passer consulaires, on crée ce qu'on appelle des hubs que l'Italie a créé en Albanie. Problème, seule la France et l'Espagne s'y opposent, mais c'est quelque chose qui est d'application directe, donc ils vont devoir le faire.
Je ne suis pas sûr que l'Italie soit un modèle de réussite en matière de migration.
Non, mais elle a réussi
maintenant, oui. Maintenant, oui.
J'aimerais juste terminer sur ça. Donc, comme c'est un règlement d'application directe, donc les 27 États membres vont devoir l'appliquer. Seule la France et l'Espagne ont dit nous ne l'appliquerons pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tous ceux qui vont être expulsés dans les 25 autres États vont venir en France et en Espagne. Donc c'est un appel d'air incroyable, juste parce que Emmanuel Macron a dit non, nous c'est pas dans nos valeurs humanistes d'expulser les gens et de mettre des gens dans des hubs s'ils les veulent pas. Donc tous ceux qui feront objet d'OQTF dans les 25 autres pays vont venir en France et en Espagne. Donc on en aura encore plus que ceux qu'on n'arrive pas à expulser.
Tiens, pénurie de saisonniers dans le secteur de la restauration. Elliot, c'est votre coup de gueule.
Oui. Il manque 60 000 saisonniers. Il manque 60 000 saisonniers cette année pour le CHR, donc café, hôtellerie, restauration. Donc, en fait...
Il y a 250 000 Algériens qui arrivent.
je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir avec ce grand sourire. Vous allez me dire, oui, c'est les métiers compliqués, donc on va prendre des gens qui
ne veulent plus.
Voilà, que les Français ne veulent plus faire. Mais bon, en vrai, plus grosse problématique, c'est un, le rythme. Travailler souvent 6 à 7 jours sur 7. Vous êtes en coupure en restauration, donc vous travaillez toute la journée avec 2 à 3 heures de pause l'après-midi. Donc les horaires sont contraignants. Donc l'intensité, le salaire est souvent bas et pénurie de logement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais pour beaucoup de saisonniers, ils sont obligés de se loger donc à l'extérieur des villes où ils travaillent pour pouvoir aller travailler. Et du coup, la problématique, c'est qu'ils payent plus en loyer que ce qu'ils sont payés. Donc, ils ne peuvent plus faire ça. Donc, aujourd'hui, moi, je me pose une question, c'est tout le monde se lève pour savoir quand est-ce qu'on va baisser les charges sur les saisonniers, même sur le travail tout court. Quand est-ce qu'on aura un État qui sera, en fait, proche de sa population pour comprendre que pour pouvoir aller travailler, il faut... Pour qu'un restaurant ou même tout le travail puisse tourner, avoir des gens... Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus personne.
Mais moi, je vais vous dire, ce n'est pas un problème de pénibilité. C'est un problème d'argent.
Ah non, là, ce n'est pas pénibilité. Hein.
Vous allez en Suisse. Moi, j'étais en Suisse il y a 2 semaines. Ils n'ont absolument aucun problème au niveau du personnel.
Oui, enfin,
c'est-à-dire que vous avez des serveurs, ils sont très heureux de travailler, etc. Et pourtant, c'est en haute montagne. Et il n'y avait aucun souci en matière d'effectifs. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. C'est les taxes, c'est les charges, c'est les salaires trop bas. Forcément, parce que les charges patronales sont très élevées. Donc, en fait, c'est toujours un problème économique et pas un problème de pénibilité. Nos grands-parents travaillaient, il n'y avait aucun souci. C'est juste qu'on est dans un pays de feignasses, les gens ne veulent pas travailler.
Il y a
beaucoup de jeunes qui ne veulent pas travailler, qui aujourd'hui préfèrent vendre des photos de leurs pieds sur OnlyFans plutôt que d'aller servir des blanquettes de veau.
Mais
c'est la vérité. Mais il y en a beaucoup qui ont raison parce qu'ils sont tellement peu payés que voilà, tant mieux pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une partie de la population qui sont feignants. C'est tout. Avant, les jobs étudiants, c'était des jobs saisonniers où les étudiants en étaient travaillés pour pouvoir financer leurs études à la rentrée. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire ça. Voilà, c'est tout.
Juste avant, saisonniers, c'est pas forcément les étudiants. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que on se focalise sur les étudiants. Non, mais il y a des gens qui vivent que de saison, que des saisonniers. Enfin, c'est des saisonniers, donc ils travaillent soit à la montagne et du coup, ils font tous les fin automne jusqu'à début printemps. Ils font les montagnes ou alors ils font de début avril jusqu'à octobre, ils font les saisons. Et ils font la saison d'été.
C'est quoi ton point?
Non, mais c'est juste qu'il faut, il faut bien les limiter. C'est des gens qui vont travailler 8 mois, mais 8 mois intenses. Quand vous êtes sur une station balnéaire.
Les gens n'ont plus besoin d'argent. Moi, j'ai travaillé en restauration pendant 3 ans. J'ai fait plein de jobs hyper pénibles. Et pourtant, je me suis pas dit, quand il y a une nécessité, tu travailles et c'est tout.
Mais
les gens ont trop d'argent, en fait.
Mais pas du tout. Quand vous êtes saisonnier, normalement, vous troquez une grosse partie de votre temps pour le travail. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 5 jours par semaine, comme on fait souvent dans toute la France, c'est vous allez en faire 7, vous allez travailler à plein temps.
Vous adhérez à un système, c'est tout.
Oui, vous adhérez à un système. Mais au contrepartie, vous avez 2-3 mois plein pour vous, vous pouvez voyager, vous pouvez faire autre chose. Mais c'est pas avoir un manque de volonté de travail. C'est juste que vous allez donner plus de votre temps pour gagner plus d'argent pendant une période
censé
assez longue.
Plus d'argent, d'ailleurs.
Et censé gagner plus d'argent et pour pouvoir après récupérer sur les 3 autres mois.
C'est un problème économique.
Problème économique, il n'est pas chez les gens qui veulent travailler que pendant une période et s'arrêter. C'est que l'État surcharge les salaires, que les employeurs payent de moins en moins parce que dès que vous dépassez le SMIC en salaire, vous passez à 70% de charges patronales et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir un salaire décent quand vous voulez travailler déjà à 5 jours sur 7, mais quand vous êtes saisonnier, c'est encore impossible, parce que derrière, il faut avoir le logement que vous avez à l'année pendant que vous travaillez, qui coûte une blinde, que dans la ville où vous travaillez, vous pouvez pas trouver de logement, parce que en fait, c'est des stations balnéaires où, en gros, on va mettre des loyers en Airbnb super chers pour éviter que vous soyez dedans, et du coup, vous allez devoir vous loger à 50 bornes de là où vous êtes, mais quand vous commencez à 7h et que vous terminez à 2h, en fait, vous dormez 3h par nuit. Donc, normalement, vous devrez avoir une compensation de salaire.
Nicolas Sarkozy avait fait la TVA à 5,5, hein, ça a pas marché.
Je vous rejoins un peu tous les deux.
Je suis vraiment pas d'accord avec vous par contre sur la pénibilité. Moi j'ai travaillé dans la restauration plus jeune. Et vous l'avez fait aussi d'ailleurs.
Moi aussi.
J'avais travaillé dans la restauration. On a tous un peu travaillé dans la restauration plus jeune.
David, il venait consommer.
Sur la pénibilité.
David, il faisait les bar mitzvahs.
Sur la pénibilité, je peux pas vous laisser dire ça parce que la pénibilité de ce métier, elle est quand même terrible. Quand on voit les gens, parce que nous on a eu la chance de faire ça uniquement étudiants, mais vous le savez très bien, quand on voit des serveurs.
Non, moi j'ai fait 3 ans, j'ai fait toute mon en alternance de mes 14 ans à 18 ans.
Et bah, y a une différence entre faire ça pendant 3 ans et faire ça pendant 40 ans. Quand on voit les serveurs qui ont 40 ou 50 ans qui ont fait ça toute leur vie, et bah, justement, bah, saisonnier, c'est pas que temporel. C'est, les saisonniers font ça assez régulièrement. C'est des saisons qu'on enchaîne chaque année. Et bah, on voit dans quel état Peter Abisson. Ils ont des problèmes de dos de partout, ils sont fracassés de partout. Et je rejoins
Elliot,
pardon, complètement sur le point de vue économique. C'est-à-dire qu'à la base, lorsqu'on fait ce genre de sacrifice qui est la saison, c'est travailler très ardemment, travailler tous les jours, effectivement, c'est 7 jours sur 7. On travaille énormément. Pourquoi ? Pour gagner de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, les salaires ne suivent pas à cause des charges patronales, à cause des problèmes de logement aussi, vous l'avez rappelé, et ça c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'autrefois on se logeait un peu en coloc, etc., le temps de la saison, sauf que les loyers sont terriblement hauts et les gens n'arrivent plus à se loger. Donc en fait, il y avait la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy qu'on a citée tout à l'heure, travailler plus pour gagner plus. Bah là, c'est travailler plus pour gagner moins, parce qu'in fine, ils ne gagnent pas grand-chose et ça ne leur permet pas, effectivement, cette saison de pouvoir, comme à l'époque, partir en vacances lorsqu'il y a une pause et autres.
David.
C'est des métiers extrêmement pénibles.
Donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faille faire venir des gens
Non. Non, parce que en fait, là c'est pareil. Je vais répondre à cet argument, parce que cet argument, j'entends tout le temps. Oui, il faut faire venir des gens. Mais déjà, ça s'appelle de l'esclavage. Faire venir des gens pour les faire bosser, parce qu'en fait, c'est mieux économiquement parlant. C'est déjà de l'esclavage. Premièrement, deuxièmement, les Français qui vont dans ce genre de métier pénible n'ont pas du tout les mêmes objectifs de vie que les immigrés qui viennent pour faire ce genre de métier pénible. Mmh. Aujourd'hui, un Français qui fait ce genre de métier pénible, son objectif, c'est quoi ? C'est de s'acheter une maison, comme tous les Français, de devenir propriétaire, de construire une famille. L'immigré qui vient pour faire ce genre de métier extrêmement pénible, encore une fois, n'a pas du tout les mêmes objectifs.
Non, il enrichit son pays plus que le nôtre.
Lui, tant qu'il peut, effectivement, envoyer de l'argent à la famille et retourner in fine, parce qu'il y en a beaucoup qui retournent au final dans leur pays d'origine. C'est ça son objectif. Son objectif est court terme, c'est pas le même. Donc en fait, quelqu'un qui travaille tous les jours et qui n'arrive pas à se payer sa maison, il faut quand même se payer.
Vous allez avoir votre réel, vous inquiétez pas.
Oh là.
Et quand vous rentrez quand vous en Arménie?
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bah, vous étiez au QTF et au début de l'émission.
Très bien, mais entre-temps, j'ai été naturalisé, madame. Donc, je suis autant français que vous.
Il y en a qui ont des passe-droits, ça va
vite. Alors, je vais répondre à ça.
Vous savez,
je suis autant français que vous, voire plus. Voire plus. Moi, la France m'a choisi, contrairement à vous. Voilà.
Mais nous aussi, la France nous a choisi.
Non, vous êtes né français. Moi, elle m'a dit, ok, tu peux devenir français. Ah, c'est différent déjà.
Mais enfin, excusez-moi, mais la France, l'état dans lequel elle est allée.
Moi, j'ai passé un test.
La manière dont elle choisit.
Moi, la France m'a voulu.
Mais nous aussi, en Algérie.
Regardez les jaloux.
Nous aussi, en Algérie. Elle est venue nous chercher.
Bande de jaloux.
Elle est venue nous chercher en Algérie, monsieur.
Oh là là.
Qu'est-ce qui se passe?
Rien, il y a un débat des colères.
Il y a de l'agitation dans la régie, donc comme des gamins, les chroniqueurs ne sont plus concentrés.
Un mot de la fin, David. Non, mais tout ça pour dire qu'on est d'accord qu'il faut baisser les charges patronales, les charges salariales.
Pas tous, hein. Vous étiez pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur.
Mais ça va pas, n'importe quoi.
Bah si.
Il y a Alexandre de Galzin qui est actuellement dans la régie, voilà, donc on le salue, on espère qu'il reviendra nous voir très vite.
Bonjour,
qui me fait signe de la tête.
C'est lui qui fait ce bruit.
Voilà. Armand, un mot de la fin.
Pas rien, je pense qu'on était plutôt tous d'accord sur les nombreux sujets qu'il y a eu aujourd'hui. À quelques désaccords, mais c'est bien, c'est toujours aussi plaisant et à très vite.
Voilà, si vous ne vous faites pas retirer votre nationalité. Elliot.
Moi j'ai un message pour David, arrête avec les sénateurs.
Oh.
Merci à tous d'avoir suivi, on ne va pas se mentir, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.